Bon midi. Bienvenue à Boulevard 102.1. L'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal Cévé. On aura le caucus avec Antonine Iaccarini dans quelques instants. Vous allez bien, mesdames?
Très bien.
Cool. Excellent. Moi aussi, je vais très, 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 très bien. Mais vous le savez, il y a un gros ouragan qui s'en vient vers la Jamaïque. C'est l'ouragan Mélissa. Et on a la chance d'avoir un citoyen de Kingston en Jamaïque qui est là-bas pour nous expliquer ce qui se passe. Il est chef cuisinier là-bas, c'est Mathieu Masson du CEP. Mathieu, comment ça va dans ce chaos total?
Écoute, ça va comme ça va. On vient de perdre l'électricité là, après un long 12 heures de pré-tempête. On s'attend à ce que Mélissa arrive d'ici une heure sur les côtes de la Jamaïque. Alors, c'était le pré-party avant le vrai party.
Ouais. Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends à ce que, tu sais, je te vois, tu es à l'intérieur de ta maison, tu m'as envoyé des vidéos ce matin, il y avait déjà de l'eau qui commençait à rentrer. Tu t'attends à quoi là, par rapport à ta demeure? As-tu peur que ça soit complètement rasé?
Non, je n'ai pas nécessairement peur à Kingston que ma demeure soit complètement rasée. Par contre, l'eau et le vent est tellement puissant que ça réussit. C'est assez incroyable, Mère Nature. Ça réussit à te trouver la plus petite craque dans un mur, dans une fenêtre. Il y a tellement de pression que ça rentre chez toi à un débit assez impressionnant. Alors, c'est vraiment, en ce moment, moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est plus de micro-gérer l'eau qui rentre, sécher ses serviettes. Refaire une rotation. Alors, c'est un peu tout ça là, qui moi, c'est plus l'eau et le vent qui me fait peur. Mais Kingston reste qu'on est à l'extérieur du cône. Alors, ça on croise les doigts là, pour que ce soit pas si pire.
Est-ce que c'est pour ça que tu es encore là? Parce que là, quand on parle de catégorie 5, la plus élevée, responsable déjà de 3 décès en Jamaïque, 3 en Haïti, en République dominicaine aussi, on en compte un. Ça pourrait toucher au moins 1,5 million de personnes, c'est ce qu'avertit la Croix-Rouge. Inondations, ravages et tout ça. T'sais, on s'attend à des dégâts comparables à ceux qui ont été causés par les ouragans Maria en 2017 ou Katrina en 2005 du côté de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est un choix d'être encore en Jamaïque en ce moment?
Oui, absolument. Je veux dire, moi, j'habite ici. Je suis résident local jamaïcain. Je paie mes taxes en Jamaïque. Ma vie est ici. Mon travail est ici. Je suis Canadien, mais j'habite ici. C'est une réalité qui, à chaque année, fait partie de la réalité des îles. Moi, j'ai la chance d'avoir. Je me débrouille en cuisine. J'ai des bonnes connexions ici. Je suis aussi ici pour faire une différence. Lorsque la tempête est passée, le but, c'est de s'assurer d'être en sécurité, d'être bien. Je suis relativement privilégié dans la vie. Alors, je ne suis pas celui qui est le plus à plaindre, mais ce que j'ai, c'est du talent et du désir et un grand cœur. Alors, moi, je suis déjà en train de sauter sur les lignes, puis préparer des repas, puis avec World Central Kitchen, dès demain, si tout va bien, je vais essayer de commencer à nourrir des gens, en fait.
Wow, c'est incroyable.
Alors, ouais, c'est de redonner à sa communauté, tu sais, en tant qu'homme blanc en Jamaïque, tu fais ta différence, tu fais ton chemin, puis c'est rendu ma famille, puis ils m'ont adopté, puis ils sont gentils avec moi, alors je redonne avec tout ce que je peux. Je veux être à la maison, je veux contrôler les dégâts qu'il peut avoir. Je suis content d'avoir été ici cette nuit. Si je n'avais pas été ici, mon petit chez moi, il serait mouillé plus qu'il l'est en ce moment. Alors,
Oui, je comprends très bien. Tu es là pour prendre soin de ta demeure. Est-ce que tu as réussi à dormir un peu cette nuit ou tu es sur le qui-vive depuis un bon laps de temps?
ouais, j'ai dormi, je me suis couché, on and off, des petits laps de 2 heures. Je me suis couché tôt hier soir, mais dès que les vents ont pris, puis que la pluie la frappe dans les vitres, les châssis de métal du building au complet se mettent à grincher, ton patio, tu penses qu'il va s'envoler. Ouais, j'ai pas dormi depuis 3 heures, cette nuit-là.
Tu vis dans quoi exactement? Est-ce que c'est un bâtiment en hauteur? Est-ce que
Oui,
tu as beaucoup de gens autour de toi qui sont restés aussi?
mon building est relativement, on est tous là. On est tous dans notre building. Moi, je suis au 4e étage. J'ai quand même un gros condo neuf. La seule chose, c'est que c'est beau puis c'est neuf, mais c'est plein de vitres. Alors, ça, c'est moins pratique. C'est pratique quand il fait beau puis que je regarde les montagnes. Mais il y a une semaine par année où ce que tu dis, maudit, j'aurais pas dû mettre autant de vitres. Pour l'instant, écoutez, je suis entouré. Kingston reste qu'on est à l'extérieur du cône de Mélissa. Alors, Kingston est entouré par la chaîne des montagnes bleues. Les montagnes vont y goûter, mais quand on est dans le creux des montagnes, on est un peu protégé malgré tout par l'environnement naturel. Alors, Kingston, pour l'instant, risque d'être la région la moins affectée de la Jamaïque.
Est-ce que tu vas aller
Alors,
porter main forte justement aux autres régions qui vont être plus touchées?
absolument,
Et
en ce
lesquelles
moment,
sont-elles? Tu veux nous
j'étais.
les rappeler?
Écoute, on ne sait jamais jusqu'à temps que ça arrive pour l'instant, tout ce qui est sud-ouest de la Jamaïque. Alors, Clarendon, Sainte-Catherine, Sainte-Élisabeth, Montego Bay, Sainte-Marie. D'après mes sources en ce moment ici, c'est les endroits qui vont être le plus affectés. Mais vraiment, tu sais, quand ton premier ministre dit on s'en sortira pas dans ces régions-là, c'est franc, puis c'est direct, puis c'est cru comme réponse, là. C'est. Ouais.
Ça a de quoi donner le frisson dans le dos.
Oui,
Ouais.
exactement. Alors, c'est sûr que oui, le but, ça va être. On va savoir demain. Demain, je vais savoir quelle région est affectée. Est-ce qu'on est capable de se déplacer? Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont capables de fonctionner? Alors, nous, on va arriver sur place, peut-être en hélicoptère, en voiture, on ne le sait pas. Puis, on va mandater des restaurants. Alors, les restaurants qui peuvent fonctionner, j'achète tout ton stock. Combien de repas tu peux faire par jour? Et puis, nous, on s'occupe de la distribution. Alors, la première aide est souvent en dedans de 24 heures. Par après, lorsqu'on commence à nourrir les populations, nous, on bâtit des cuisines centrales puis des cuisines de distribution. La cuisine centrale produit du riz, des protéines en sauce, etc. On distribue ça à des food trucks, des cuisines avec des tentes dehors. Puis après ça, on commence à faire la distribution de notre côté aussi, de notre nourriture. L'année dernière, on nourrissait après Béryl 6 000 repas par jour à
Wow.
travers les régions. Cette année, on espère peut-être monter jusqu'à 15 000. On a vraiment une grosse équipe qui devrait arriver demain, des hélicoptères, des avions. Ici, moi, j'ai trouvé environ une centaine de bénévoles à travers la Jamaïque qui sont prêts et dispo à venir travailler, à nous aider. Puis, on est tous en train de lancer des levées de fonds, des GoFundMe. Tu sais, ça peut être 10 $, 5 $. On va acheter des carottes, du riz, du chou. Vraiment, juste commencer à porter main forte à ceux qui vont être vraiment ravagés là, par l'ouragan.
Et si nos auditeurs veulent donner, à quel endroit on peut justement trouver ton GoFundMe?
Le GoFundMe, c'est sur mes médias sociaux. On peut aussi donner à la page sur Internet de World Central Kitchen, WCK. Moi, mon réseau social, c'est Chef Mathieu MD à travers Facebook, Instagram. Mes liens sont là. On est déjà à quasiment 8 000 $ sur Facebook. Il y a d'autres levées de fonds d'amis à moi aux États-Unis. Alors vraiment, on essaie de juste avoir de l'aide, aider. Puis, tu sais, moi, je fais ça avec cœur pour redonner à ma communauté parce que je suis privilégié, puis j'essaye en ce moment de faire une différence pendant que, il y a encore un petit peu de temps, là. Alors,
Mathieu Masson-Duceppe est chef à Kingston en Jamaïque. Vous venez de l'entendre, il redonne à sa communauté de façon extraordinaire. Mathieu, on se fait un deal. Quand tu auras nourri autant de personnes, fais-moi signe. Puis je veux que tu me parles justement de toute l'opération que tu as faite de
je vais être
sauvetage avec les
débordé.
bénévoles.
Appelle-moi. Je vais te parler dans un camion s'il faut. On se jase très bientôt.
Excellent, Jase, très bientôt. Merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Bon courage
Merci
à
à
toute la
vous.
population de la Jamaïque.
Au plaisir. Merci à vous.
Merci Mathieu. C'était Mathieu Masson-Duceppe qui vit en Jamaïque, à Kingston, en Jamaïque, et qui, justement, là, va faire de l'aide humanitaire. Pascale Antonine, c'est incroyable, quel homme.
C'est dans ces contextes-là qu'on voit quand quelqu'un a le cœur à bonne place ou pas. T'sais, je veux dire, c'est des gens qui vont avoir extrêmement besoin d'aide dans les prochaines heures. Quand on dit qu'en tant que premier ministre, ça pardonnera pas, il va vraiment falloir se serrer les coudes. C'est le fun de voir des gens répondre à l'appel de cette manière-là, puis de rester pour ça. Tu te poses toujours la question à savoir si c'est quelque chose de lucide de rester dans des endroits où des choses comme un ouragan de 280 km/h en termes de vent qui sont attendus, qui va frapper de catégorie 5, la Jamaïque. C'est quelque chose d'intelligent, mais ça reste que si personne reste, ben personne peut aider ceux qui vont en avoir besoin. Là.
On connaît pas beaucoup ça, les catastrophes
Non. Non,
naturelles
c'est
ici. Là.
vrai.
Il y a eu les feux de forêt. C'est drôle parce que quand il disait, le premier ministre disait, ça va pas pardonner, entendre le premier ministre dire ça, puis ça m'a rappelé François Legault, puis les feux de forêt, quand il disait, bon, on va laisser brûler Clove. Ça m'a rappelé un mauvais souvenir, mais. Tu sais, c'est vrai que nous, dans notre tête de gens qui vivent pas des ouragans puis des tornades tant que ça, tu te dis, ben, il me semble que tu t'en vas. Tu sais, la solution logique, c'est de quitter son domicile, c'est de ne pas se mettre en danger. Mais c'est vrai que si tu pars, les dommages sur ta oui. maison, tu sais, c'est ta maison...
plus à risque.
Ben, c'est
ah oui, ils m'envoyaient des vidéos, là, justement. Là, il y a des chaudières étendues un peu partout. Mm-hmm. Ils ramassent eau pour pas que ça coule dans la maison.
Tu sais, où
fait
tu
des
vas?
Transferts.
C'est en effet, aussi une question pour certains. T'as
c'est pas tout le monde qui a un endroit où aller oui. Nécessairement, mais c'est ça. C'est des dilemmes qu'on connaît moins ici. Nous, on oui. a des tempêtes de neige. Là, c'est pas mal ça qu'on a. Des inondations des fois, puis c'est pas tout à fait la même envergure qu'un ouragan de force comme on voit là.
C'est sûr qu'on va suivre ça parce que des dommages comparables à ceux, par exemple, de Katrina en 2005 là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Moi, je me rappelle avoir visité la Nouvelle-Orléans. Je pense que c'était en 2018 que j'allais, 2017 que j'étais allée. Puis il y avait encore des quartiers mm-hmm. complètement condamnés avec des X faites à la peinture en aérosol sur les portes. Puis il n'y avait rien qui avait bougé. Puis il y avait encore des gens qui souffraient énormément financièrement de ça. Là.
Effectivement. On passe maintenant au caucus.
Le caucus. Le caucus. Rini.
Bon, bien, Anto, pendant qu'un ouragan frappe la Jamaïque, il y a une loi spéciale qui a frappé les médecins. Et là, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un véritable ouragan médiatique que cette guerre ouverte entre les médecins et le gouvernement de la CAQ et le ministre Christian Dubé.
Oui, effectivement, c'est une tempête. Je ne sais pas de catégorie combien, là,
ouais.
mais c'en est une bonne. C'en est ouais. une vraie. Ce qui frappe aujourd'hui, puis depuis hier, c'est vraiment la quantité de témoignages du point de vue des médecins. Parce qu'on entendait oui. beaucoup parler les fédérations dans les dernières semaines. Mais là, c'est vraiment des médecins individuellement qui nous disent « Voici comment, moi, ça va me toucher. Puis voici comment ça ne fait aucun sens, en fait, ces mesures-là dans ma réalité. » Moi, je pense que les Québécois sont relativement d'accord avec les objectifs du projet de loi. Mm-hmm. C'est-à-dire, écoutez, ça fait des mois qu'on négocie, les médecins ne montrent pas d'ouverture pour les indicateurs de performance. Il faut qu'on change le mode de rémunération. On a tourné autour du pot dans les dernières ententes, puis il n'y a rien qui a changé. Je pense que les gens sont plutôt d'accord avec ces objectifs-là. Mais là, de voir à quel point il y a des non-sens dans le projet de loi, puis des problématiques, des choses qui ne fonctionnent pas, tu te dis, ouais, mais là, on n'était pas à 3-4 semaines, là. Tu n'es pas obligé de botcher non plus.
Non, puis d'avoir une loi autant matraque, là. D'ailleurs, je te fais entendre, c'est Patrice Roy sur Radio-Canada qui a justement questionné Christian Dubé à cet effet-là. Hey, comment ça, c'est aussi rapide et aussi fort? C'est un échange d'environ une minute.
Et savez-vous quoi, M. le ministre?
Oui.
Ça, c'est un bon exemple de notre discussion actuellement. Quand on dépose un projet de loi, puis vous le savez, à l'Assemblée nationale, épais comme ça, commission parlementaire, bonification du projet de loi, réflexion sur l'impact insoupçonné d'une loi, vous n'avez pas eu le temps de faire ça.
M. Roy, j'ai déposé le projet de loi au mois de mai.
Oui, mais c'est un autre, là.
Non. L'essentiel de ce qui est là, c'est le projet de loi 106 qu'on a déposé au mois de mai. On a demandé aux médecins de nous commenter ça pendant 4 mois. Puis ils ont dit, on ne veut pas discuter de ça. On ne peut pas arriver aujourd'hui puis de faire semblant que ce n'est pas arrivé.
Ouais, mais là, ils peuvent parce que c'est ce qu'ils font. Alors là, vous dites, je les invite à négocier.
Exactement. Moi, je dis, le mode de rémunération où il y a des cibles, le mode de rémunération qui va avoir un accès sur les résultats, ça change.
C'est réglé.
Mais les tarifs, eux, j'en ai mis un. Il y a un tarif qui est là. Venez le discuter pendant 60 jours. Alors, si, par exemple, pour les premiers rendez-vous, on devrait le donner à toutes les références, on le fera. L'important, c'est d'être capable d'en discuter.
Bon, Anto, je vais vous pitcher 113 pages par la tête un vendredi matin. Puis après ça, je vais vous dire, « Hey, ma porte est ouverte, j'ai les bras ouverts. Venez négocier, je vous aime. » Marche pas de même, là.
Bonjour, l'ambiance.
Ben non, c'est
mais
ça.
Déjà, l'ambiance n'était pas très bonne pour négocier avant. Là, c'est sûr mm-hmm. que c'est pire que pire. Mais c'est pas faux ce que dit le ministre quand il dit « Moi, là, tous ces éléments-là, on aurait pu en discuter ensemble. » Et il n'y avait pas d'ouverture. Tellement à un tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas dans l'intérêt des fédérations, finalement, qu'il y ait une loi spéciale parce que leurs membres étaient tellement crinqués que peu importe ce qu'ils auraient signé, ça n'aurait pas fait.
Oui, c'est vrai. Ça me fait penser beaucoup aux enseignants avec la FAE, justement, lors de la grève générale où ça a passé à 50%.1.
Mais quand tu mobilises bon tes membres, là, à un moment donné, il faut les faire descendre du rideau. Puis il faut leur dire, bon, écoutez, parce qu'une entente, ça finit par être des compromis. Ça ne sera pas exactement comme avant, là. Non, ce ne sera pas tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que les fédérations, finalement, ont fait ce travail-là, à un moment donné, de faire redescendre le niveau d'intensité? Non. Puis, je pense qu'ils ont regardé leurs membres puis se sont dit, bon, il n'y a rien qu'on va pouvoir leur présenter qui va leur convenir. Bon, cela étant, on n'est pas dans leur tête, fait que je ne peux pas leur prêter des intentions comme telles. Mais c'est vrai que maintenant que la loi est passée, puis là, les gens se rendent compte que crime, le travail en commission parlementaire, ça a une utilité, hein?
Ben oui.
Genre, notamment, régler certains effets pervers qu'on n'avait pas vus à première vue, etc., améliorer le projet de loi. Mais là, il reste plein de choses à améliorer. Puis même si les gens sont fâchés, puis même si tout le monde est à couteau tiré, la négociation doit quand même se poursuivre. Parce que là, si on veut que ça fonctionne, à un moment donné, tu sais, pour les médecins, ça pourrait être tentant de laisser les choses aller pour prouver que finalement, ça marchait pas, cette approche-là. Hein. Tu sais, des fois, quand on n'est pas d'accord avec une décision, on a le goût un peu de saboter. Puis je dis pas qu'ils vont le faire, là, mais ça donne pas envie d'aider au succès.
De collaborer.
Ouais. Mais là, dans l'intérêt, non seulement de tous les travailleurs de la santé, mais aussi du patient, il faut continuer de travailler pour peaufiner les choses puis pour s'assurer que les non-sens qui sont dans le projet de loi ne se déploient pas sur le terrain.
On se questionne à savoir, c'est-tu un genre de... À un moment donné, on a frappé le mur d'égo dans les négociations, autant pour les médecins que pour le gouvernement, que ce soit pour l'organisation ou autre. Puis après, il n'y a tellement pas eu d'avancement que le gouvernement a décidé d'y aller avec le bras de fer puis faire ben, « tant pis, on la passe, cette loi-là ». On dirait que c'est ça. T'en penses quoi, toi?
Je ne sais pas si c'est tant une question d'ego que du côté des médecins, d'exaspération. Exaspérés de travailler dans un système qui ne fonctionne pas. Et ça, je les crois. Je pense qu'on doit les croire et il y a beaucoup de choses qui soulignent qu'on doit écouter. Mais il y avait aussi quelque chose d'un peu pourri dans le mode de rémunération à laquelle, c'est une chose à laquelle on doit s'attaquer. C'est-à-dire que le mode qui est seulement payé à l'acte n'a pas donné les fruits. Okay? Donc, on a rajouté de l'argent pour essayer que les actes soient plus nombreux puis que finalement, les gens aient plus accès à des soins. Ça n'a pas fonctionné. Si on y allait seulement par capitation, qu'on appelle un mot technique qui veut dire que dans le fond, on te paye selon le nombre de patients que tu prends en charge, mais ça ne marche pas non plus. Parce que là, tu vas prendre plein de patients, mais est-ce que tu vas poser les actes puis vraiment les voir puis les soigner?
C'est là qu'on parle de médecine fast-food.
C'est là qu'on arrive dans le fast-food. Alors là, on a trouvé une solution où on a mis une partie de la rémunération qui est liée à des objectifs pour essayer d'augmenter la productivité collective des médecins. Mais là, quand on arrive dans l'individuel, on trouve toutes sortes de folies. Mais on essaie de faire une espèce de compromis entre qui va pousser à faire une plus grande prise en charge. Puis là, quand je dis un compromis, ben là, c'est fini. Il n'y a plus de compromis. À partir du moment où on a passé la loi spéciale, maintenant, ils sont obligés
et
d'inscrire
là,
des patients.
Une prise en charge collective qui va amener une façon de faire où il y aura peut-être des délateurs, des gens qui vont dire... « Toi, tu fais pas bien ça, t'envoies pas assez
terrible.
Patients. »
Mais ça, je crois pas à ça, mais oui.
Ouais, ben d'ailleurs, le docteur Vincent Oliva, qui est justement le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, tenait une conférence de presse à 11h ce matin. On a annoncé qu'on allait justement aller en justice pour combattre la loi spéciale et certains éléments de cette loi-là, dont celui-ci.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la forme, c'est l'approche, c'est la façon dont ce gouvernement-là s'en est pris pour arriver à une loi comme ça. Alors, pendant qu'ils nous leurraient à la table de négociation, cette loi-là qui ne s'est pas écrite en un week-end de 113 pages, ils étaient en train de la rédiger. Et quand on l'analyse comme il faut, on se rend compte, dans le fond, que ça brime des libertés individuelles élémentaires. Les médecins n'ont pas le droit de ralentir. Hein, ils ne peuvent pas se désengager. Puis même si le ministre Dubé dit « oui, mais c'est pas l'intention, c'est ça qui est écrit ».
On pousse loin, là. Tu sais, quand on dit « hey, s'il y en a deux qui partent, ça peut être une action concertée, puis vous allez payer des amendes, vous allez être barré du Québec à vie ». Ouf,
on se donne,
c'est autoritaire, pas à peu près.
On se donne des pouvoirs. Est-ce que le gouvernement va les utiliser? Moi, je crois pas à ça. Mais, je veux dire, une fois que c'est écrit dans la loi, les médecins ont tout le beau jeu d'amener ça dans les tribunaux. Puis, honnêtement, il y a plein d'affaires qui ne passeront pas le test des tribunaux, on le sait. Mais revenons sur la démarche plus globale du ministre,
ouais.
OK? À partir du moment où tu n'arrives pas à faire passer rien par négociation, que tout le monde est sur ses positions, tu sais, la méthode de Christian Dubé, puis on l'a observé, là, ça fait maintenant quelques années, depuis 2020, qu'il est ministre, c'est de dire, OK, ça y est, je casse ce moule-là. Il l'a fait avec plusieurs choses. On pourrait parler des infirmières, des agences de placement d'infirmières notamment. On casse ce moule-là, on casse le moule du ministère en créant une agence, etc. Tout n'est pas magique, puis ça ne donne pas les résultats en 5 minutes. Mais là, tout le monde dit « attention, il y a des risques, etc. » J'ai l'impression qu'il les assume, ces risques-là. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les nouveaux médecins qui vont arriver dans le système, ceux qui vont rester, vont évoluer dans ce nouveau deal-là. Mais c'est sûr que quand toi, t'as connu des années où ça fonctionnait pas comme ça, bien, il y a une gestion du changement qui se fait pas en douceur présentement. Fait que c'est sûr qu'il va avoir des œufs cassés. En même temps, là, j'entends toutes les menaces d'exode, les médecins vont s'en aller dans d'autres provinces. C'est possible qu'il y en ait. Mais, tu sais, juste réfléchissez, là, demain matin, là, Pascal, Jeff, vous décidez que ça ne fait plus votre affaire et vous voulez vivre dans une autre province. Pensez à tout ce que ça implique de changer de province avec vos avoirs, vos maisons, la barrière de la langue, toutes les affaires d'ordre professionnel, les écoles.
Pour les enfants.
Les écoles pour les enfants. Je m'excuse, mais... Moi, je ne crois pas là, qu'il y a 25 % des médecins qui vont partir demain matin nécessairement.
Hey, tu vois, moi, je t'emporte à foi avec toi là-dessus.
Vas-y donc.
J'ai parlé à plusieurs médecins qui ont des familles qui me disent hey, « Écoute, on est en train de regarder les coûts des maisons en Ontario, Nouveau-Brunswick. On fait quoi, les enfants? » Les enfants sont en jeune âge.
Ils vont être capables.
Ils sont en train de l'évaluer. À savoir s'ils vont le faire, je ne sais pas. Mais il y a une grosse évaluation qui se fait de la part de plusieurs médecins à l'heure actuelle.
Il y a quelques temps, avant que le ministre de la Santé décide de mettre des limitations pour pouvoir passer au privé, quand il y a eu les premières mesures qui déplaisaient aux médecins dans les dernières années, il y en a plein qui se sont désaffiliés du système public aussi. Donc, oui, il y a des risques à faire ce que le ministre de la Santé fait en ce moment. Mais outre la démarche puis l'objectif que je respecte, je trouve que l'agenda est quand même... C'est sûr que c'est difficile de ne pas se dire le gouvernement est pressé de gagner des points politiques.
Ben oui, c'est clair.
Donc là, tout ce qu'ils font, on le regarde à travers cette lunette-là et on se dit, ben dans le fond, c'est qu'ils essaient de remonter dans les sondages. Okay? Donc, on est très, très sceptique face à tout ce qu'ils font. Et là, d'avoir précipité ce projet de loi-là la semaine passée, avec des lacunes importantes, tu dis, OK, tu sais, mettons que tu es François Legault. Tu veux faire bouger l'aiguille d'ici Noël, mettons.
Ben oui. Parce que sinon, ça se peut que tu dises, ça va être le chant du cygne. Puis Christian Dubé, c'est mon grand chum. Fait qu'il va me donner un coup de main.
Puis il est populaire. Puis Christian Dubé, c'était un des derniers ministres qui restait populaire. Donc, est-ce qu'il a joué, dans le fond, une carte un peu le tout pour le tout avec cette histoire de médecin? C'est sûr que la question se pose. Moi, je pense que sur le fond des choses, tout le monde se dit, le statu quo n'est plus possible, il fallait que ça bouge. Mais de là à faire ça la semaine passée avec des lacunes
dans le projet de loi? Moi, c'est ça qui m'énerve, là, je vais le dire comme ça, puis que je comprends pas. C'est de l'avoir fait la semaine passée. Il n'y avait rien qui pressait à part l'agenda politique de la CAQ.
Puis, ben, il y avait l'enseignement, c'était d'arrêter aussi les moyens de pression.
Pour l'enseignement.
L'enseignement en médecine.
Mais ça, je crois que si on s'était... Tu sais, la Fédération des médecins spécialistes avait retourné justement à l'enseignement parce qu'on avait donné une ouverture justement à la négociation. C'est l'agenda politique de la CAQ qui m'énerve là-dedans.
Je me suis demandé si une éclipse un peu... d'attention sur la SAQ CLIC, la Commission Galant, tout ce qui se passait un petit peu plus négatif, puis se sont dit « Ah, peut-être qu'on va l'intéresser, les citoyens, citoyennes, les patients, du moins, avec un genre de refonte rapide de la santé, puis on va la sortir plus rapidement. »
Il y a des sondages récemment qui nous ont confirmé que la santé, c'était la priorité des Québécois. Hein?
Ouais.
Fait que là, c'est drôle, parce qu'on dit toujours, à chaque fois qu'ils font quelque chose, on dit que c'est une diversion. Bien là, on fait des diversions, mais on parlait beaucoup d'identité cet automne, immigration, laïcité, etc. Puis on disait que c'était une diversion aussi. Là, c'est santé, puis on dit, ah, c'est peut-être une diversion. Moi, je pense qu'ils ont des sondages qui disent que les Québécois ont une opinion ordinaire des médecins dans leur collectivité.
Bien,
parce que leur médecin, à eux, ils l'aiment.
On l'a vu cet été avec ce processus de négociation-là où les médecins fermaient la porte. Je vais juste prendre les textos des auditeurs qui, en passant 418-971-1021, qui n'étaient pas très positifs envers les médecins. Ça, tu as raison de le dire. Moi, j'aime beaucoup ma médecin de famille. Mais j'aimais pas la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Mais souvent, c'est des gens qui sont bien rémunérés, c'est des gens un petit peu plus haut dans la hiérarchie, dans ça. Puis tu sais, tantôt, on va vous présenter, Jeff et moi, un dossier complet. Je travaille là-dessus depuis plusieurs heures, j'ai questionné plein de médecins. Puis la deuxième question que j'ai posée à plusieurs personnes différentes, répondent tous aux mêmes 5 questions, c'est pourquoi on vise les médecins comme étant problématiques selon vous? Parce que c'est un peu ça qu'on a comme impression.
Bien, puis les médecins répondront ce qu'ils veulent. Moi, je vais vous donner une partie de ma perspective à moi là-dessus. C'est que le médecin est au centre de tout dans notre système de santé. Donc, c'est pas vrai qu'on peut tout changer dans le système de santé sans toucher à la manière d'organiser les soins et de rémunérer les médecins. C'est beaucoup d'argent. Et de l'argent qu'on met chez les médecins, c'est de l'argent qu'on peut pas mettre ailleurs aussi à un moment donné. Il faut que nos dollars fassent plus de chemin. Je pense que ça fait partie un peu du pari du ministre de la Santé, c'est de se dire, OK, ça va être difficile, ça va être une grosse gestion du changement. Et il y a des objectifs qui sont effectivement individuellement des fois pas capables d'atteindre. Mais ça va provoquer tellement... En fait, ce que ça fait en sorte, c'est que les médecins vont avoir une motivation. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de motivation, mais quand tu as une partie de ta rémunération qui dépend de l'organisation des soins puis que ce soit plus efficace, à ce que tout se restructure autrement, finalement. Ouais. Parce qu'il y a quand même plusieurs clés qui sont dans les mains des médecins. Là, c'est sûr qu'ils sont complètement désengagés. Ben, ça va être ils le feront chose. Pas, là.
As-tu l'impression qu'on pourrait faire un genre de parallèle entre quand tu as une entreprise puis certains de tes employés, tu les fais devenir actionnaires de l'entreprise en se disant ils vont s'impliquer dans la façon de faire rouler l'entreprise?
C'est pas une mauvaise comparaison, c'est juste que les médecins, c'est pas des employés de l'État. Hein. C'est comme eux qui sont à la tête de leur entreprise. Ils sont incorporés.
Travailleurs autonomes.
Ils ont de la clientèle à l'infini. Hein. Ils manqueront jamais de clients. C'est très difficile de faire une comparaison avec une entreprise privée. Puis en plus, on les paye évidemment avec de l'argent public. Puis on le sait qu'une grosse problématique, c'est l'organisation. C'est pas... Eux, ils nous disent on manque de médecins. Peut-être qu'il en manque un petit peu, mais c'est un problème d'organisation. Puis, tu sais, si on ouvrait, on demandait aux gens de nous écrire, avez-vous vu récemment un enjeu de désorganisation dans le système de santé? Et vous allez en avoir une trollée de témoignages, des non-sens, des affaires bureaucratiques tellement ridicules.
Des médecins qui attendent pour opérer parce que la salle n'est pas prête puis qu'il n'y a pas d'infirmiers et infirmières qui ont été attitrés à cette opération-là, mais qui seraient prêts, ça nous...
Moi, Antonine, c'est raconté par beaucoup de gens.
Là, des gens des années. Qui pensent qu'ils sont sur la liste d'attente du guichet d'accès puis que finalement, ils se rendent compte qu'ils ne le sont pas parce que supposément qu'ils ont un médecin de famille, mais dans le fond, leur médecin a pris leur retraite depuis 20 ans. Des niaiseries de même, il y en a plein.
Selon un auditeur ou une auditrice, François Legault s'est complètement trompé. C'est Cruella Dubé, non pas Cruella Durand. Oh. Hey, on termine le caucus avec PSPP. Est-ce qu'il s'est mis une fois de plus les pieds dans les plats? On l'écoute.
C'est qu'un Parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur et qui n'a presque pas de contenu, on a vu ça à presque chaque décennie de notre histoire au Québec. Et ça a toujours mené à des gouvernements affairistes et corrompus. Donc, je nous invite à ne pas céder à ce genre de discours divisif et de peur. Si ce parti-là nous ment sur l'essentiel, bien, ils vont probablement nous mentir sur tout le reste, comme l'histoire du Québec, en ce qui a trait au Parti libéral, nous le confirme.
Bon, Pablo Rodriguez, c'est pas mon préféré. J'ai pas trouvé qu'il a été super flamboyant en fin de semaine au Congrès des libéraux. Il est à 12 % dans les sondages comme faisant le meilleur premier ministre pendant que François Legault est à 14. Donc, ça prouve à quel point il est en difficulté. Mais là, de là traiter les libéraux de corrompus, là, il y en a plus de libéraux corrompus. Là. C'est quoi? On ramène cette gang-là à Jean Charest? Là. Bon. J'en vois plus, me semble, de gang comme
d'abord.
Ça.
Il n'a pas dit que les libéraux étaient corrompus. C'est vrai que si tu écoutes ce qu'il dit, il dit que le fait que les libéraux secouent toujours l'espèce d'épouvantail d'un référendum puis tout ça, ça fait en sorte qu'on ne se pose pas les bonnes questions, qu'on ne débat pas sur les bonnes affaires et que ça a mené, par le passé, à un gouvernement libéral corrompu. OK, donc il n'a pas accusé... Ouais. Pablo Rodriguez d'être corrompu, mais ça y tentait de plugger le mot corruption.
Oui, c'est ça, ça y tentait. Bon. Puis là, en même temps, c'est-tu la bonne façon de faire? Tu m'aimes dans un sondage. Fais donc un Bruno Marchand de toi-même. Là. Bruno Marchand, t'es à 40% dans un sondage. Il sort aucune clip qui va venir le mettre dans une position où les gens vont devoir dire Bruno Marchand est pas gentil.
Mais ça, c'est le réflexe d'un parti qui est dans la troisième opposition et qui devait crier très, très fort pour se faire remarquer.
C'est vrai.
Le PQ, là, il y a quelques années, en 2022, là, le monde il disait que c'était mort. Là. C'est fini, là, le PQ. Là. C'est terminé. Là. Donc, ils ont fait des coups d'éclat. Ils ont réussi à faire des bons coups, des espèces de tactiques qu'ils ont menées finalement à se faire entendre. Et là, ils sont premiers dans les sondages. Effectivement, il faut que tu changes tes réflexes quand tu es premier dans les sondages et que tu es à quelques pas du Honoré Bercier, là, de devenir premier ministre,
ben oui,
là, de quitter les banquettes de l'opposition. Là.
Parce que je reviens sur mon exemple de Bruno Marchand. Quand il était nez à nez dans les sondages avec Sam Hamad, je couvrais les conférences de presse de Bruno Marchand acerbe envers Sam Hamad.
Oui,
il l'attaquait, il frappait dessus. Et là, depuis deux semaines, quand il est à 40%, là, bonjour! Je vous présente mon annonce du jour. Ça va bien?
On est sur le contenu. Ouais. On présente notre vision.
C'est ça. Des questions? Ah, posez cette question-là à M. Hamad et M. Lachance. Ils vont vous répondre. Il n'attaque plus personne.
Moi,
là.
Je laisse les autres se chicaner. Moi, je présente mes idées. Bon, ben, c'est ça. Ça devrait être le réflexe maintenant du PQ de changer. Puis, il y a aussi une question de personnalité pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui a tendance à faire flèche de tout bois.
Ben, c'est ce que j'allais te demander. Il va-t-il être capable de le faire, PSPP?
Ben, ça a l'air difficile. Le pli est bien pris. Puis, j'ai trouvé que, en fait, c'est correct, OK? Pablo Rodriguez sort et dit « C'est épouvantable, ils veulent vous consulter et vous demander si vous voulez la souveraineté du Québec. Ça, c'était peurant, ça, c'était... Il faut pas faire ça, là, c'est... » Bon, moi, si je suis chef du PQ, je me dis « Hey, là, bonhomme, là, c'est une bonne occasion de répondre que c'est des campagnes de peur, que c'est des épouvantails, puis que c'est pour éviter de parler des vraies affaires, parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi la vision de Pablo Rodriguez. Ouais. » On lui reproche ça, hein, d'être dans les slogans, dans les lieux communs. Donc, tout ça, ça va. Mais quand tu rajoutes le petit mot « corrompu », là, tu lui donnes une porte de sortie. Parce que là, il va sauter là-dessus, puis tu vas dire « Ça n'a pas de bon sens, puis on va vous poursuivre, c'est de la diffamation. » Surtout que pour vrai, c'est vrai, là, ils n'étaient pas là à l'époque de Jean Charest. Il n'y a plus un ministre de l'époque de Jean Charest qui est là. Il n'y a personne qui pense que...
Ouais, t'es Marc-Yvan Côté, puis dans le PLQ.
Puis je veux juste dire que pour être corrompu, ça fait 7 ans que le Parti libéral est dans l'opposition. Là. Pour être corrompu dans l'opposition, il faut vraiment se forcer parce que tu n'as pas grand-chose à donner en échange de dons politiques quand tu es dans l'opposition, à part poser une question en période de questions. Donc, honnêtement, ça aurait fait pareil, finalement, de l'attaquer sur son manque de contenu, ouais. De dire qu'au lieu de nous faire peur avec des référendums, de nous expliquer c'est quoi sa vision pour le Québec, qu'est-ce qu'il va faire exactement pour les médecins? Qu'est-ce qu'il va faire pour les places en garderie? C'est toutes des questions auxquelles Pablo Rodriguez ne répond jamais. Donc, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, du piment fort, moi, j'aime ça dans la vie, là. Mais trop de piment, c'est pas bon, OK? C'est le dosage. Je pense que c'est notamment ce qui l'a mené là, qu'il laisse pas des choses s'installer, il répond, il est très réactif, mais à un moment donné, choisis aussi ton dosage dans ta réponse. Parce que là, tous les... Tu sais, il attaque beaucoup les chroniqueurs.
Parce que tu vas être attaqué, là, t'es promis.
Ben, c'est ça.
C'est clair que t'es attaqué.
Puis il avait été énormément apprécié dans les derniers débats qu'il y avait eu communs pour les chefs parce qu'il avait gardé son sang-froid, il avait été dans un calme, il avait été capable de répondre avec une certaine lucidité. Puis ça, il avait monté dans les sondages par cette prestance-là aussi auparavant.
Oui, exactement. Donc moi, j'ai trouvé qu'il a donné une porte de sortie, finalement, encore une fois, à Pablo Rodriguez avec le mot « corrompu », que ça aurait fait, ça aurait fait pareil de répondre sans rajouter ce mot-là. Cela dit, il y a beaucoup de gens chez qui ça résonne. Pas les indécis, mais les vrais péquistes là, qui ont leur carte de membre dans les mains tout le temps, là, évidemment, eux autres, ils tombent pas en bas de leur chaise aujourd'hui.
Un petit corrompu, là, ça leur fait du bien.
Ah, ça
mais
leur
y a-tu besoin de parler à sa base?
Ben, pas vraiment. Ils vont aller où s'ils parlent pas que... S'ils disent pas que les libéraux, c'est des corrompus, les péquistes vont pas s'en aller, là.
Ben non, puis je termine là-dessus, c'est parce que c'est de la façon qu'il le fait aussi. Il l'a quasiment fait en annonce nationale. Il a rien à l'Assemblée nationale hier. Il réserve la salle à 11h. Il se présente. Il est la seule conférence de presse de la journée. T'sais, s'il avait glissé dans un scrum quelconque, je dirais pas. Il l'a planifié.
Et tout ça arrive dans un moment où la CAQ est quand même dans la chenoute, là.
Ben, c'est ça. Tout le monde parle de la loi spéciale 2. Pourquoi tu t'en viens faire ça?
C'est ça. On peut se questionner sur la stratégie. Cela dit, c'est vrai que Pablo Rodriguez puis ses épouvantails de la souveraineté, moi, ça me fait rire. Ayez donc peur qu'on vous consulte. C'est un référendum, là, c'est pas un monstre qui va venir vous croquer les pieds. Là. C'est juste on va vous demander votre avis sur quelque chose. C'est démocratique.
Pablo a peur.
Il a peur.
Il a peur de tout, Pablo. Nouvelle de dernière heure, Pascal.
Oui, on vient d'apprendre en fait qu'hier, sur ordre du président Trump, il y a le ministère de la guerre, le fameux ministère qu'il a créé, qui a mené 3 frappes létales contre 4 bateaux. Ces bateaux-là sont présumés être des bateaux de narcotrafiquants dans le Pacifique Est. Alors, ça s'est passé, ça a tué 14 hommes. C'est ce qu'on a annoncé du côté du secrétaire à la guerre. Et c'est Pete Hegseth qui l'a fait sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a visé ces gens-là parce qu'on croyait que c'est des organisations désignées comme terroristes l'Est par les États-Unis, se livrant au narcotrafic dans le Pacifique, comme je vous disais, Est. Et là, au total, c'est 3 frappes qui ont tué 14 personnes. Alors, c'est sûr que ça va faire jaser aujourd'hui. C'est toutes des frappes qui ont été menées dans les eaux internationales.
Donc, à suivre du côté des États-Unis, mais chose certaine, ça brasse énormément. Puis, tu sais, de régler ça à coup de bombe comme ça, ça me laisse toujours pantois parce que je me dis, écoute, on peut avoir tué des innocents là-dedans.
Présumé.
Peut...
Présumé, c'est important comme terme actuel qui est même utilisé par les prises de parole du côté des États-Unis. Et on est rendu à 57 personnes qui ont été tuées dans des frappes. Au total, c'est 14 embarcations qui ont été présentées comme celles de narcotrafiquants détruites par des frappes américaines.
Le droit international, et corrigez-moi, je me trompe, mesdames, ne marche pas à coup de bombe, mais bien à coup d'arrestation et de poursuites en justice.
Bien, leur légalité est largement mise en doute en ce moment.
Exactement. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour cette nouvelle de dernière minute. C'était très apprécié. Antonine, merci pour le caucus. On se parle demain. Et on fait une courte pause ici. Par la suite, Mathias Turcotte vient s'installer. Il a couvert 2 points de presse. Bruno Marchand et Sam Hamad ce matin. Donc, on revient en actualité municipale. Et on va faire un gros tour de nouvelles parce que c'est une grosse journée d'actualité, Pascal CV. Je me trompe-tu?
Autant dans les faits divers que dans ce qu'on vient de vous apprendre.
Exactement. Puis on va revenir sur ce match JJ. C'était fait en 18e manche. Tard. 2h45 à matin.
L'as-tu écouté au complet?
Non, je me suis couché après la 8e manche quand même. Je pouvais plus ça faire. Mais je me suis réveillé, puis c'était en 16e manche. J'ai passé proche, je me disais, j'ai checké sur mon téléphone. Ah, 16e manche, je vois-tu, je vois-tu pas? Mais j'ai dit, ah non, je vais dormir. Alors, on fait une courte pause et on revient à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
Très contente d'avoir des suivis dans ce genre de dossier-là. Quand vous m'en faites, même si c'est pas de l'actualité, ben c'est de l'actualité dans vos vies. Puis ça a été l'entretien du véhicule en fin de semaine. Il y en a plusieurs qui connaissaient pas pièces auto économiques. Bienvenue dans le club maintenant pour connaître le leader au Québec, en fait, pour les pièces auto et accessoires. Quand vous êtes des taponneux sur votre véhicule puis que vous vous dites, ben ouais, moi, je suis capable de faire ça, changer mes pneus, les essuie-glaces, ma batterie, mon alternateur, ben go, parce qu'on a les 20 marques de pneus, d'essuie-glaces et de batteries, d'alternateurs de qualité pour l'entretien de ton véhicule. Puis, en fait, vous me l'avez dit qu'en fin de semaine, vous avez travaillé sur votre bécane, puis vous l'avez fait avec, justement, les économies du côté des 9 magasins partout au Québec puis le site transactionnel de pièces d'auto économiques. Je vous parlais d'un rabais, il est encore en cours jusqu'au 31 octobre prochain. Vous économisez gros. D'abord, c'est toujours moins cher. Deuxièmement, tu obtiens 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max à forte tenue en carbone. Ça, c'est pour un freinage plus en douceur. Tu as aussi 15 % de rabais sur les plaquettes de frein Bosch et 15 % de rabais sur les essuie-glaces Bosch. Faut pas attendre à la dernière minute pour la mise au point du véhicule. Et les rabais, ben, c'est maintenant, jusqu'au 31 octobre. Pièces auto économiques, c'est des grandes marques, des pièces neuves et je surligne garantie avec les meilleurs prix. Pièces auto économiques en magasin ou encore en pièceséconomique.com sur le web.
Moi, je jase.
Je préviens, on jase.
Je l'aime, cette voix-là. Je te préviens. On jase! Ah oui, vous avez bien raison, on jase. On vient de jaser, justement, de cette guerre ouverte entre le gouvernement et les médecins. Merci beaucoup. Vous avez été énormément à réagir. Il y a plusieurs textos que j'ai adorés, dont celui-ci. C'est ironique quand même. On leur a donné les moyens, parlant des médecins, les moyens en dollars de pouvoir quitter quand ils veulent, où ils veulent et avec une quiétude financière. En effet, puis on part à la guerre contre eux. Non, non, je vous le dis, c'est vraiment pas beau ce qui se passe. Il va falloir que ces deux entités-là, c'est-à-dire le gouvernement et les fédérations là, des médecins, s'assoient ensemble pour calmer le jeu parce que il y a personne qui est gagnant et surtout pas le patient quand ça chicane, Pascal CV. On pense pas vraiment aux patients à l'heure actuelle.
Non, puis tu sais, je veux dire, je refais un genre de ne manquez pas tantôt le ramassis d'informations
qu'on a tellement.
Du côté des médecins. J'ai passé les dernières heures, la dernière journée hier aussi, à ramasser plein de témoignages avec 5 questions concises. Jeff, on va faire le tour de ça tantôt. Mais effectivement, les impacts sont plus larges et les dommages collatéraux assez importants.
Vraiment, vraiment. Il y a quelque chose qui m'a fendu le cœur aussi hier. 11:50 in Los Angeles. Freeman sends a fly ball to center field. Varsho's going back before the clock strikes midnight. Freddie Freeman has ended it. It's a repeat hero with the last word on a Game 3 classic. 18e manche. Ça s'est terminé à 2h45 du matin ici au Québec.
Une vraie joute de sport, là. D'après moi, il y en a une coupe ici à Québec. En 88-971-101, qui s'est couché tard?
Ouais, c'est ça. Qui est allé jusqu'au bout de ce match-là? Mathias Turcotte, t'es-tu allé au bout du match?
Non, je suis pas allé au bout du match, mais ceux qui sont allés au bout du match, du moins, c'est des sportifs.
Ah oui.
Pour un sportif, surtout de haut niveau comme ça, on veut tellement performer, on veut tellement gagner. Ah, que ça doit faire mal. Quand tu reviens au vestiaire après avoir perdu ce match-là du côté des Blue Jays, il devait avoir une méchante boue dans l'estomac.
Ah oui, là, t'as mal partout. D'ailleurs, parlant d'avoir mal partout, un des meilleurs frappeurs de l'équipe, George Springer, s'est blessé au dos hier. Donc, cas douteux pour le match d'aujourd'hui. Bo Bichette a été encore une fois retiré en 7e manche. Lui qui revient d'une grave blessure au genou. Donc, les Jays sont maganés. C'est Shane Bieber qui va affronter Shohei Ohtani au Monticule ce soir. Il n'y aura rien de facile pour nos Jays, Pascal, mais on garde espoir.
On garde espoir.
Depuis le début de l'année que les Jays nous surprennent et font des remontées.
On soutient l'équipe, on ne se laisse pas avoir par les Dodgers qui disent à l'aéroport au Canada, ouais. Parce qu'ils ont attendu un petit peu, là, puis ça a l'air que c'était pour les déstabiliser. Là. Non, on continue. Là. Ouais. On continue après un combat.
On a des textos qui rentrent. J'ai toffé jusqu'en 16e manche. Après, je me suis rappelé que je me levais à 6 heures.
ça fait une sieste et une autre nuit.
Une courte nuit de 4 heures dans le cas de cet auditeur ou auditrice.
Fini la game. Es-tu sûr que c'était à 2h43? Ouais. La personne, elle ne sait même pas.
Hey, mais faut-tu être passionné? Je suis pas assez passionné de baseball pour avoir fini cette game-là à 2h43. Ouais. Je vais être honnête. Mais je trouve ça beau à voir même, que ce soit des passionnés de baseball ou juste des passionnés canadiens qui disent « Hey, on a une équipe du Canada qui sera en finale. On va finir la game. » C'est hot de voir autant de personnes qui reste tard pour soutenir notre équipe.
Vraiment, Jean-Sébastien qui dit « J'ai écouté tout le match, pas facile aujourd'hui, ça en valait la peine. » Claude André qui dit « J'ai lutté pour essayer de toffer, mais ça n'a pas marché. » Steve qui dit « J'ai écouté jusqu'à la fin, mais aïe aïe, quelle défaite qui fait mal. » P.O. qui ne se souvient même plus de l'heure à laquelle il s'est couché. Colosse qui s'est endormi. Colosse que vous entendez à la fin de semaine. Il s'est endormi au début de la 9e. Vois-tu, moi, je suis allé me coucher au début de la 8e. Un autre auditeur également qui dit que je me suis rendu à la fin et j'écouterai ce soir une cheerleaders de salon,
bon
dernier
ça.
Circuit. Il était 2h51. Bravo d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de ce match. Donc, quatrième match ce soir de cette série mondiale entre les Jays et les Dodgers. Mathias est allé à deux conférences de presse ce matin. Bruno Marchand et Sam Ahmad. Et là, Pascal, tu vas être d'accord avec moi. Je lève mon petit doigt, je réfléchis. Ah! On a parlé de cette taxe de 3 cents sur l'essence.
Ben oui, on en a parlé, c'est sûr.
Nostradamus Fortin!
Hier soir, il y a eu un débat à TVA, puis ça a été un sujet que Sam Ahmad a ramené. En fait, les fameuses taxes de Bruno Marchand ont été un sujet en soi. Forcément, on en a parlé. Puis cette fameuse taxe-là de 3 cents le litre, c'est une taxe qui aurait été mise sur l'essence pour financer le transport en commun de la communauté métropolitaine de Québec au grand complet. Donc, on parle de plusieurs municipalités quand même. Et Sam Ahmad a affirmé que Bruno Marchand avait voulu mettre cette taxe-là en place. Bruno Marchand a expliqué la situation différemment ce matin.
Oui, non, mais c'est parce que M. Ahmad affirme des choses qui sont fausses. Alors, ce qui s'est passé, tous les maires de la communauté métropolitaine de Québec, dans le but d'augmenter le transport collectif, avait dit qu'il faut évaluer tous les scénarios possibles. Il n'y avait pas de vote qui avait été pris, il n'y avait pas de direction qui avait été donnée, il avait été demandé à la communauté métropolitaine de Québec, pas par un maire, là, pas par le maire de Québec, par tous les maires, d'évaluer les différents scénarios. Il n'y a personne qui s'est engagé. Alors oui, la communauté métropolitaine de Québec avait évalué l'idée de différents scénarios pour avoir un apport financier pour augmenter le transport collectif, pour servir les citoyens. Il n'y a jamais eu de décision qui a été prise. Il n'y a jamais eu de vote qui a été pris. Il n'y a jamais eu d'avis favorable qui a été pris. Le gouvernement a dit « Nous ne ferons pas ça. Nous ne permettons pas ça. Nous, on n'avait pas pris de décision. » Alors, ce que M. Ahmad a dit, c'est complètement faux. Ce n'est pas une volonté du maire de Québec. C'était tous les maires de la communauté métropolitaine qui avaient demandé à la CMQ, pas d'évaluer une taxe d'essence, d'évaluer tous les moyens pour voir comment on peut faire pour bonifier l'offre de transport collectif de Stoneham à Lac-de-Lage en passant par l'île d'Orléans.
Oui, ça, c'était dans la guerre ouverte avec Geneviève Guilbeault où toutes les sociétés de transport réclamaient un plus grand financement à raison des déficits accumulés. Alors, c'est là que la demande avait été faite. Et justement, les maires de la CMQ se retrouvaient à demander cette évaluation-là, y compris Gilles Laulier là, à Lévis.
Sa maman a toutefois tenu à défendre sa position ce matin en affirmant que le ministre des Finances ne serait pas sorti si ce n'était qu'une hypothèse.
C'est drôle, hein? C'est une hypothèse. On ne l'a pas pensé, mais c'est drôle que le ministre des Finances du gouvernement de Québec, le conseil de ministres, sort pour dire non. Alors, si c'était vraiment une réflexion intérieure tout seul, bien, le conseil des ministres ne sortira pas publiquement pour dire non. Moi, l'info que j'ai, il y a eu une analyse concrète. Il était, faisait pas l'unanimité parce qu'il y a plein de maires, plusieurs maires importants qui étaient contre, puis ils étaient contre tout le long. Puis c'était un revenu, je pense, que j'ai entendu, 22 millions de dollars qu'on va aller chercher dans les poches de contribuables. C'est 3 cents d'essence.
Alors voilà, c'est le commentaire de Sam Ahmad. En effet, et si on refait le récapitulatif des choses, évaluation demandée, la porte a immédiatement été fermée par le gouvernement. Il parle du ministre des Finances, Éric Girard. C'était Jonathan Julien, à titre de ministre de la Capitale-Nationale, qui était sorti dans les médias. Chose certaine, t'es Pascal, tu vas être d'accord avec moi, la stratégie de sa maman de là-dedans, c'est de ramener le fait que Bruno Marchand taxe les gens, notamment avec la taxe à l'immatriculation.
Oui, on est encore dans la même stratégie politique, en fait, aller explorer qu'est-ce que l'autre propose, mm-hmm. puis aller trouver un peu sur le coup, qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord avec quoi, puis de faire des points de presse là-dessus. On s'attend un petit peu plus, je pense, d'ici la fin de la campagne, ouais. Mais j'ai l'impression que là, le vent ne tournera pas. Là.
Non, vraiment pas. Je pense que le 40% de Bruno Marchand est bien ancré, ça fait 2 sondages.
Puis hier, ça s'est vu au débat, autant sa maman, autant Stéphane Lachance, d'attaquer ces fameuses taxes que Bruno Marchand rajoute. On peut penser à la taxe à l'immatriculation, on peut penser à la taxe au chat, par exemple. C'est les deux qui sont mis d'avant plus souvent. Aujourd'hui, justement, Bruno Marchand a été questionné à savoir est-ce qu'il allait avoir des nouvelles taxes durant son mandat. Voici sa réponse.
Bien, personne ne peut fermer la porte complètement. Mais oui, mais M. Ahmad, il ne connaît pas ce qui va arriver dans 2 ans. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive au Québec, il ne connaît pas l'état des finances publiques. Alors, à la lumière des faits d'aujourd'hui, ce que je vous dis, là, c'est la même chose que lui. Maintenant, il faut prendre les gens pour intelligents. Là. Si le contexte change, il va falloir le réévaluer. On n'est pas en train de dire qu'on veut ça, on veut pas ça.
Donc, on dit on veut pas instaurer de nouvelles taxes, mais si jamais on a un contexte économique qui nous force à trouver des fonds dans l'immédiat, par exemple, il a donné comme exemple au cours du point de presse, si le Parti québécois, en rentrant au pouvoir, ou la CAQ même, décide de couper des fonds pour justement les municipalités, ben il va pas avoir le choix de trouver un moyen d'avoir de
l'argent. Ça, il l'avait
évoqué
en entrevue ici qu'on a eu. La visite de M. Marchand dans On en jase, il parlait justement de ça. Donc les taxes allaient rester, qui allaient augmenter selon l'inflation et autres là, mais elles sont là pour rester. Puis on va continuer de les faire avancer si pour les gens de Québec, l'administration Marchand est toujours en place après les élections. Puis c'était quelque chose qui était dans son fonctionnement en tant que maire, soit trouver comment aller renflouer les coffres.
Oui, puis t'es aimé Bruno Marchand, votez pour lui, votez pas pour lui. On a d'ailleurs un texto qui mentionne il y a beaucoup trop de taxes à mon goût. Va falloir à un moment donné que le RTC devienne rentable et enlève des autobus. En effet, va falloir que le RTC arrête les déficits et trouve un moyen justement de revenir à cet équilibre budgétaire-là. D'ailleurs, soit dit en passant, les sociétés de transport, par une loi, normalement, n'ont pas le droit de faire de déficit. Donc, va falloir revenir à cet équilibre-là. Mais Bruno Marchand est très transparent sur sa gestion financière. Il l'a dit, j'ai fait une taxe à l'immatriculation, c'était rien d'électoraliste, je l'ai mis un an avant les élections. Les gens savent à quoi s'attendre avec moi. Même principe là où il dit, écoutez, s'il y a des revenus qui ne rentrent pas, il va falloir que je regarde qu'est-ce que je vais faire avec ceci. Alors, ça l'avantage, cette honnêteté-là a l'avantage de savoir si tu votes pour lui, tu ne votes pas pour lui, tu sais au moins qui est Bruno Marchand.
Mm-hmm.
Passons aux annonces d'aujourd'hui, parce que oui, Sam Ahmad et Bruno Marchand sont sortis aujourd'hui pour faire des annonces. Je commence avec Bruno Marchand. En gros, ce qu'il annonçait aujourd'hui, c'est de l'aide dans le milieu culturel. Tout d'abord, on prévoit pour le festival Réverbère, qui est une fin de semaine durant l'Action de grâce, un festival qu'on met de l'avant l'art des différents habitants de Québec. Donc, on prévoit de nouveaux sites. Tout d'abord, très carré, le site patrimonial de Sillery. Et par exemple, le vieux Cap-Rouge seront étudiés pour éventuellement avoir des sites pour réverbères dans ces secteurs-là. Également, ce qu'on dit, c'est que on veut rendre la littérature des bibliothèques plus accessible. Présentement, on cible de trois endroits en particulier, Sainte-Thérèse, de Lisieux, Saint-Rodrigue et la Pointe-Sainte-Foy, pour dire qu'il n'y a pas d'accès immédiat proche de bibliothèques. Donc, on veut mettre des bibliothèques éphémères le plus rapidement possible dans ces différents secteurs-là. Questionner à savoir si... En cas de coupure budgétaire, en cas de budget plus serré, la culture écope souvent. Bruno Marchand a dit que ce ne sera pas le cas pour lui.
On va continuer de budgéter serré. On va continuer de faire en sorte que nos dépenses n'augmentent pas plus vite que nos revenus. Mais la culture ne peut pas souffrir de ça. La culture, et pour moi, et pour Catherine, et pour Mélissa, mais tous les conseillers, conseillères, candidats, candidates derrière, nous sommes à... Et le ministre l'a dit, le ministre Lacombe, c'est pire que jamais l'influence par les plateformes, notamment numériques, l'influence de la culture nord-américaine qui est envahissante au sens où elle est omniprésente. Elle est évidemment soutenue par un aspect financier, par une masse financière, parce qu'il y a beaucoup plus de gens à l'écoute, qui font en sorte que sur toutes les plateformes, on pousse de la musique qui vient d'ailleurs, on pousse des artistes qui viennent d'ailleurs, des vidéos qui viennent d'ailleurs, du cinéma qui vient d'ailleurs. Si on ne veut pas se faire envahir par ça, puis il y a des choses très intéressantes là-dedans, là, c'est pas une critique de ce que je fais, mais si on veut pas que notre culture en souffre, on doit investir.
Pour l'annonce de Réverbère, Bruno Marchand répond à une critique que Réverbère se positionnait seulement dans le Vieux-Québec, donc au centre-ville, alors répond à cette critique-là. Sa maman a fait une annonce aussi concernant les arrondissements, si je ne me trompe pas.
Oui, 1 000 000 $ qui sera dédié à chaque arrondissement, donc qui permettra le conseiller de l'arrondissement en question de dépenser ça.
1 000 000 par arrondissement.
1 000 000 par arrondissement, exactement. Donc, l'objectif de ça, c'est que, justement, l'élu puisse agir rapidement auprès des citoyens. Questionner à savoir, est-ce qu'on va devenir Montréal? Parce qu'à Montréal, on voit des conseillers qui ont trop de pouvoir.
Oui, c'est vrai, des budgets par arrondissement très élevés.
Puis ça rend parfois les décisions de la mairie difficiles.
Puis, tu sais, des fois, dans ce genre d'enveloppe budgétaire-là, si je te donne 1 000 000 pour ton arrondissement, puis dans l'année, toi, tu as décidé de gérer ça, puis que ça te coûte moins qu'un million.
Ouais.
Mais peut-être l'année d'après, on dit, ah, parfait, on va baisser les enveloppes. Et ça encourage, surtout au fédéral, on le voit.
À dépenser le million.
Dans certains ministères, à dépenser million sans avoir une gestion très serrée du budget. Là.
Mais sa maman tient à préciser que c'est vraiment juste pour des actions simples.
En fait, on va continuer à avoir un maire, mais ce qui est important, les élus dans l'arrondissement qui aient un pouvoir pour répondre puis être en contact avec les citoyens directs puis avoir une marge de manœuvre pour répondre à des demandes simples. On ne parle pas, mettons, des projets des centres de loisirs où on parle de 20 millions, 30 millions. On parle vraiment des affaires, des demandes locales, des petites demandes dans le quartier, dans le parc, des affaires de même où on donne à l'arrondissement la liberté de travailler avec les citoyens.
Ces deux belles annonces de Bruno Marchand et Sam Hamad, justement, qui répondent aux besoins des arrondissements et des banlieues. Mais Pascal, je me trompe-tu, ni Sam Hamad, ni Stéphane Lafrance, ni Claude Villeneuve, puis je vais embarquer Jackie Smith et Anne Guérette là-dedans, me font assez rêver et font assez rêver les jeunes de la population de Québec pour dire, malgré le mécontentement qu'il y avait de 51% des gens qui voulaient voir un changement d'administration, pour dire « on va changer ». L'administration.
C'est un excellent point, Jeff, que tu amènes. Puis c'est ça. Je pense que c'est une course, en fait, électorale qui est assez pauvre en ce sens-là. Tu vas demander à plein de citoyens sur le terrain qu'est-ce qui vous motive pour la suite des choses? Mm-hmm. Qui vous met les étoiles dans les yeux? Personne qui m'a répondu de façon très claire.
Donc, malgré le fait qu'on a plusieurs candidats pour cette élection-là, je trouve ça dommage que pour Québec, il n'y en ait pas un qui me fasse vibrer.
Oui, puis c'est souvent justement des règlements de compte qu'on a à ce moment-ci. Puis
de la petite politique. La petite politique de « Non, tu veux taxer de 3 cents. Non, toi, t'es plus méchant parce que tu veux faire un tramway. Hein? Non, toi, ton SRB. » Puis on était de la petite politique comme ça.
Je suis déçu parce qu'on avait plusieurs candidats, comme tu dis. Puis on avait aussi des gens qui se disaient extrêmement prêts à nous faire rêver.
Oui, mais ça n'a pas été le cas pour cette campagne électorale-là. Pour qui allez-vous voter? 418-971-1021. Vous pouvez inscrire indécis aussi. Faites juste inscrire le nom du candidat à la mairie. Pour qui, candidat ou candidate à la mairie, pour qui vous allez voter? Pascal, avant qu'on ait rejoint Rémi Villemur après une courte pause, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Parce que Ça brasse!
Beaucoup de choses. Premièrement, dans les dernières heures, on a appris que le gouvernement Legault allait sabrer dans le budget de la Sûreté du Québec. Donc, on va fermer une douzaine de postes de police pour la SQ. Compression demandée, qui sont de l'ordre de 120 millions de dollars par année. C'est sous la plume de Félix Séguin qu'on peut lire ça dans le Journal de Québec. Mais on vient vraiment de faire cette forte demande-là, cette haute demande-là, au moment où on dit vouloir opérer un virage vers la loi et l'ordre. Alors, c'est un peu ironique pour certains. C'est ce que le bureau d'enquête a appris. Alors, une douzaine de postes de police auxiliaires en région, notamment en Abitibi-Témiscamingue, dans la Naudière, au Saguenay, puis il y a une liste étoffée là, où on va fermer les postes. La direction des crimes financiers de la SQ aussi sera abolie. Un gel d'embauche de nouveaux policiers qui va être décrété pour se conformer au nouveau cadre financier. Et ça, c'est selon des sources gouvernementales. Mesures d'austérité, finalement, là, qui ont été demandées il y a deux semaines à la directrice du corps de police provinciale et au cabinet du ministère de la Sécurité publique avec Yann Lafrenière. Donc, on représente, si on fait un chiffre, là, avec ces coupures-là, 10 % du budget annuel de la SQ.
C'est bizarre, ça, Pascal, parce que sécurité faisait partie des priorités pour François Legault. Donc, je la comprends.
On avait un virage, vraiment, vers la loi et l'ordre. Alors, c'est un peu ironique.
Exactement. Je comprends pas du tout ce qui se passe dans la tête de ce gouvernement-là.
Des enveloppes destinées aux écoles du Québec qui ont été amputées de 20 %. Alors, on dit que c'est des millions de dollars qui auraient dû être distribués aux écoles qui sont retenues. Sont retenues par des centres de services scolaires à des fins d'équilibre budgétaire. C'est une mesure qui a permis, en fait, à Québec de faire bien des mécontents, on va le dire comme ça. Mais il y a eu beaucoup de pression et là, le gouvernement a accepté d'assouplir ses règles. Puis on sait qu'une partie de l'argent qui a décidé d'être réinvesti dans le réseau scolaire parce qu'on veut embaucher davantage de personnel. Mais alors, pourquoi alors, au centre de services scolaires, au même moment, on retient dans les coffres une partie des sommes qui sont habituellement versées aux écoles? C'est vraiment la question qu'on se pose. Des ossements humains qui ont été retrouvés dans Bellechasse, ça attire l'attention. Oui. Donc, ils ont été retrouvés aujourd'hui dans un site d'enfouissement d'Arma dans Bellechasse. Ce serait un employé de l'endroit qui a fait la découverte en avant-midi. Des pathologistes qui ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'ossements humains. Il y a un périmètre de sécurité qui est toujours sur le premier rang nord et le service d'identité judiciaire de la SQ qui va se rendre sur place aujourd'hui. On a déjà commencé en fait à trouver la provenance des os puis d'identifier aussi les restes. Ça, c'est ça qui va donner un petit peu plus d'informations là, pour la suite des choses dans l'enquête. Je retourne à Longueuil pour le bébé abandonné.
Ah oui, quelle histoire triste.
Tellement tragique. Donc, le nouveau-né qui serait demeuré plusieurs heures dans l'abribus, il aurait été abandonné par sa mère dans un abribus de Longueuil. C'est les informations qu'on a eues au compte-gouttes en fait depuis hier. Lentement mais sûrement, on va avoir les pièces du casse-tête là, là-dedans pour essayer de comprendre la triste histoire. Mais c'est une femme de 33 ans qui aurait bénéficié des services d'un organisme d'aide pour les personnes en situation d'itinérance dans la nuit de dimanche à lundi. Et bon, vous savez, le drame, vous le connaissez maintenant. Donc, elle serait arrivée au refuge vers 3h ou 4h du matin pour se réchauffer. Elle serait toutefois endormie à cet endroit-là. Puis finalement, elle s'est réveillée aux environs de 8h. Des intervenants de l'organisme qui auraient remarqué des éléments suspects là, à l'endroit où la femme se trouvait, possiblement des traces de sang. Puis là, on lui a demandé de s'asseoir sur une chaise, de boire de l'eau. Elle s'est endormie. Rien à ce moment-là qui alarmait les gens là, plus que ça. Et c'est plus tard, finalement, qu'on a fait la macabre découverte du bébé, en fait, et qu'on a confirmé là, son décès à l'hôpital. Mais quand même, ce serait plusieurs heures où le bébé serait resté dans l'abribus. On parle de 2 ou 3 heures. Là.
Une petite dernière pour la route?
Oui. Je peux te parler, en fait... de ce qui attire l'attention au courant de la dernière heure, parce que c'est une nouvelle internationale assez importante, mais la marine américaine a coulé 4 embarcations de narcotrafiquants présumés.
Et le mot présumé est important.
Ça fait 14 morts. On l'a annoncé là, il y a peut-être une heure, en fait, du côté des États-Unis. Et ça a été annoncé par le ministère de la guerre. En fait, c'est bien sûr le porte-parole, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui l'a fait sur les réseaux sociaux. On parle, comme je vous disais, de 14 hommes qui sont décédés. Et c'est hier, sur ordre du président Trump, qu'on a passé à l'attaque. Donc, frappe létale contre 4 bateaux. C'est utilisé par des organisations désignées comme terroristes par les États-Unis. Alors, c'est vraiment les États-Unis qui les a désignés comme étant terroristes et qui se livreraient au narcotrafic dans le Pacifique Est. Et ça ajoute à plusieurs autres embarcations qui ont été frappées. Au moins 57 personnes tuées jusqu'à maintenant dans des frappes. Ça porte à 14 le nombre d'embarcations présentées comme celles que je viens de vous dire, en fait. Et c'est des frappes américaines dans les Caraïbes, dans le Pacifique depuis début septembre. La légalité est largement mise en doute par les experts.
Ouais. Ah oui, vraiment. Et prix Nobel de la paix qu'on voulait. Hein?
Du côté de Trump.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, Pascal, les gens n'oublient pas. Hein? parce qu'on a parlé des coupures à la SQ, on a reçu énormément de textos 418-971-1021 de gens qui nous disent « Ben oui, puis pendant ce temps-là, ils se sont votés une augmentation de salaire de 30%. » C'est fou comment cette décision-là, à l'approche des négociations avec le secteur public, est venue effriter les gens au plus haut point. Puis, on parlait de la tristesse de cette campagne électorale-là à Québec où personne ne nous a fait vraiment rêver. Mm-hmm. Ben, y a plein d'auditeurs qui nous textent pour dire « Ah, je vais aller voter, mais je sais pas encore pour qui. » Puis, il n'y en a pas vraiment qui me passionnent. C'est la majorité de nos auditeurs qui nous ont écrit ça.
Il y a beaucoup de gens, puis c'est la première fois que ça venait dans ligne de compte, dans discussion, mais il y a des candidats indépendants hein, dans certains endroits, là, des arrondissements. Puis, il y a des gens 88-971-1021 qui ont dit qu'ils ont été en ce sens, lors du vote par anticipation en fin de semaine.
Ouais. Donc, il vous reste, on est mardi, il vous reste trois, quatre jours pour nous faire rêver candidats ou candidates à la mairie, mais il est peut-être déjà trop tard, malheureusement. On fait une courte pause et par la suite, on rejoint Rémi Villemur en direct de Montréal. Il va notamment nous parler, Pascal, ça m'a surpris, Gabriel Nadeau-Dubois qui prend la parole pour appuyer Projet Montréal, un élu provincial qui s'immisce dans les élections municipales. Mais on sait, lui, il va partir dans un an. Est-ce qu'il sera en train de lorgner la mairie de Montréal, notre GND?
OK, tu t'en vas là.
Bien là, Projet Montréal est en retard dans les sondages. Va les appuyer.
Montréal, les citoyens clament que la campagne politique de leur côté est plate aussi.
Exactement. Je vais les appuyer. Ils vont perdre. Je vais finir mon petit mandat provincial. Je vais aller avec ma famille un petit 2 ans. Puis quand? M'a essayé d'être le maire de Montréal?
C'est sûr que quand on voit, par exemple, quelqu'un qui était hautement reconnu en politique comme Gabriel Nadeau-Dubois dire « Cher Annessie, voici pourquoi j'appuie telle personne », ça peut jouer.
Et on va également parler des médecins. Tu as fait un extraordinaire travail avec eux. Donc, on va revenir là-dessus sur le désarroi. Je pense que c'est le bon terme, des médecins.
Oui. Je vous dirais que j'ai trouvé qu'ils étaient désorganisés.
Exactement.
Mais dans, justement, cette inquiétude qui est palpable côté des médecins. Là.
Vraiment. Donc, merci beaucoup pour cet excellent dossier que tu vas nous présenter. Courte pause et on vous revient. Vous êtes à l'émission Nageurs sur les ondes de Boulevard 102.1.
La communication. On en jase. Jusqu'à 14h. On en jase.
Pascal Cévé.
Jeff Fortin.
C'est là le gars avec qui on va parler. Il fait en sorte que je suis détesté ces médias sociaux.
Ah, non.
Oh, l'écœurant.
Je pense qu'il t'aime pas parce que tu dis pas comme eux.
C'est
presque convivial maintenant sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est rendu presque la norme. On peut la déplorer.
Exactement. Mais... c'est parce que Rémi a fait un podcast avec Alexandra de Rebel News que j'ai croisé à plusieurs conférences de presse de Bruno Marchand. Et malheureusement, Rebel News, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on y va de grandes généralités comme... on dépense trop à la ville de Québec, même si on a la meilleure cote au niveau des finances publiques de Moody. Alors là, quand j'ai écrit ça sous le poste de Rémi, ben malheureusement, là, les gens de la droite m'ont dit que j'étais subventionné, que j'appuyais QS et Trudeau depuis 2 ans. Eh, ça possible.
Ouais, il y avait des amalgames très
rapides. Si les gens m'écoutent, je pense que j'appuie pas QS et Justin Trudeau. Moi, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que t'en penses, mon Rémi? Il faut se positionner dans la vie.
Oui, puis quand on jette les gants, ça se peut qu'on mange un coup de poing, puis ça donne un spectacle. Puis écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas leur répondre.
Ah, ben là, j'ai répondu avec des statistiques, des faits véridiques. Donc, bien hâte de voir. Mais c'est pas grave, je vis bien avec ça.
Tant mieux.
Ils sont drôles, ces gens-là, pareil. Ils n'ont pas grand-chose à faire dans la vie.
Mais la seule chose, mettons, moi, le dernier commentaire que je ferai là-dessus, c'est que c'est intéressant quand il y a un débat et que ce ne sont pas des insultes par rapport à l'autre. Parce que la question est, est-ce que vous trouvez que c'est un média crédible? Quelque chose du genre, toi, tu as répondu non pour telle raison. Ouais. Puis après, il y aurait pu avoir débat intéressant.
Exactement.
Ou tu aurais pu dire, j'ai l'impression qu'on s'oppose ou on arrive avec des grandes généralités. Mais lorsque vient le temps de nous faire comprendre pourquoi il se positionne en ce sens-là, il y a peu d'arguments, par exemple.
C'est ça.
On continue à redire la grande généralité. Ça aurait été intéressant d'avoir ce débat-là dans les commentaires, mais c'est pas ça qui arrive.
Hey Rémi Villemur, je te parle de mon complot. T'es-tu prêt à entendre ça?
Vas-y donc.
Gabriel Nadeau-Dubois qui appuie Projet Montréal. C'est très rare qu'on voit un élu provincial se positionner pour des élections municipales. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il s'en va aux élections 2026. Projet Montréal est en recul. Prendra sûrement pas le pouvoir à Montréal. Ben, Gabriel Nadeau-Dubois vise la mairie de Montréal en 2029.
Ben, c'est une très bonne hypothèse. D'ailleurs, ça fait longtemps... Je veux pas t'en retirer la paternité là, de ce complot-là, mais ça fait des années qu'on pense que peut-être que ça va faire partie des options qui vont être sur la table de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On en avait surtout parlé vers la dernière élection. Bon, après, sinon, qu'est-ce qui peut attendre Gabriel Nadeau-Dubois? Ben, c'est un travail dans les médias. Je pense qu'il va être, il va être convoité. C'est sûr qu'il va recevoir quelques offres. La mairie de Montréal, peut-être. En même temps, on se rappelle quand même beaucoup, là, même moi là, qui ai 31 ans, de Gabriel Nadeau-Dubois comme de celui qui dirigeait des manifestations en plein centre-ville de Montréal. Donc, il y aurait quelque chose comme une...
Y a-tu foutu le bordel à Montréal, GND?
un tout petit peu. Mais ça serait quand même beau à mettre dans un CV d'être passé de l'instigateur de manifestations monstres qui ont paralysé le centre-ville à maire de Montréal. Après, tu sais, moi... Je ne suis pas vraiment surpris qu'il ait pris cette position-là. Puis je ne suis pas contre le fait que Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin dans Québec pour Québec solidaire, défende et mette de l'avant un parti politique, en particulier au municipal. Parce que si j'étais contre ça, vous pourriez tout de suite me demander si je m'offusque quand le Bloc soutient le Parti québécois ou quand le Parti québécois soutient le Bloc québécois. Donc, il faut être cohérent dans la vie. Si on pense que c'est normal, quand on est souverainiste, que deux partis comme ça se défendent les uns et les autres. C'était moins évident aux dernières élections, par contre, hein, que le Parti québécois soutenait le Bloc.
Suite après le vote aussi, je te dirais, la sortie de PSPP avait fait rager François Blanchet.
Oui, mais là, François Blanchet, là, tout récemment, a dit qu'aux prochaines élections, il allait mobiliser toutes ses énergies pour soutenir le Parti québécois. Donc, on pense peut-être qu'ils se sont parlé cet été, en tout cas depuis les élections en avril. Mais moi, je pense que c'est normal qu'il y ait un soutien comme ça de la gauche à travers tous ces paliers de gouvernement. Même chose pour les souverainistes, même chose pour les fédéralistes. La seule affaire, et là, j'oserais peut-être donner un conseil à Projet Montréal et à Québec solidaire, ce sont deux partis qui sont en chute en ce moment, en chute libre. Pour Québec solidaire, c'est peut-être plus abrupt que pour Projet Montréal, mais vous suivez peut-être un peu moins que moi les élections municipales à Montréal. Projet Montréal, même s'ils sont au pouvoir, ça ne sera pas comme Bruno Marchand qui va reconduire un mandat. Le Projet Montréal devrait arriver deuxième, normalement, dimanche. Puis l'écart se creuse, je dirais, entre Projet Montréal et le parti Ensemble Montréal de Soraya Martinez-Ferrada. Donc, de voir deux partis qui vont mal s'associer les uns aux autres, ça peut envoyer un drôle de signal. Ça peut évidemment mobiliser la base, les motiver à aller voter. Hein, j'ai regardé ce matin là, le taux de participation pour le vote par anticipation. À Montréal, c'est 9 %. C'est très peu. Là.
Et c'est 16 % à Québec.
Oui, mais c'est la moitié, donc. Puis aux dernières élections à Montréal, je pense qu'on était vers 30-40 % le taux de participation total. Donc, on n'arrête pas de dire que les gens vont sortir dimanche. Je ne sais pas, là, s'il annonce super beau, là, je ne suis pas sûr que le monde va vouloir aller se mettre en file. Puis s'il ne fait pas beau, je pense encore moins qu'ils vont aller vouloir se mettre en file. Donc, peut-être que c'est ça aussi, la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est de dire, regardez, là, on a perdu, du point de vue municipal, l'espoir de mobiliser des gens qui ne sont pas des électeurs naturels au parti. On va au moins motiver nos troupes. Les réseaux sociaux de Gabriel Nadeau-Dubois s'adressent directement à des gens qui votent pour Projet Montréal. Mais de voir deux partis qui ne vont pas bien se prendre la main et dire « on est la solution », d'un point de vue esthétique, je dirais que j'ai déjà vu des choses plus belles que ça.
C'est intéressant, par contre, ce qu'il fait, parce que même s'il le fait de façon semi-candide, allons-y avec un genre de « moi, j'appuie telle personne parce qu'il a envie d'appuyer telle personne », puis que son parcours politique tire à sa fin pour le moment, de ce qu'on comprend. Il défend quand même l'éducation. Pour lui, c'était quelque chose qui était super important, puis c'est vrai qu'il vient de là. Donc, on dirait qu'il choisit des petits mandats, des prises de parole en se disant « je serai plus là de toute manière, donc pour un moment ». C'est vraiment ce que je crois. Donc, je vais y aller comme ça. Mais s'il va avec un genre de « j'appuie tel candidat » ou « j'appuie tel parti » pour peut-être arriver au municipal, il y a peut-être un changement de paradigme qui se trame aussi au niveau de la politique, parce qu'on a vu une Catherine Fournier quitter d'autres paliers politiques pour aller au municipal à Longueuil. Ça fonctionne très bien. Elle a le plein pouvoir, tiens, disons-le, à faire changer des choses dans le quotidien des gens, puis à s'impliquer, puis à avoir un changement tout autre que juste être politicien de backbencher, si on veut. Puis peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas réussi à faire ça au sein de Québec solidaire. Il se dit, le municipal peut être intéressant pour ma suite politique.
Oui, mais d'un point de vue stratégique, là, regarde, on va jouer au RH en ce moment.
Ouais,
on va jouer à donner des conseils d'emploi à Gabriel Nadeau-Dubois. T'sais, de t'associer à un parti qui va finir deuxième, ça, je pense, c'est sûr que ça va arriver, là. OK, je mets 100 piastres à la table, là. Ça arrive dimanche, il arrive deuxième. Ben, c'est pas intelligent d'un point de vue stratégique si toi, ta véritable intention, et là, je fais référence au complot de Jeff, c'est de te lancer à la mairie en 2030 ou bon, tu sais, c'est pas la bonne idée de faire ça. T'es mieux de rester dans ton coin.
Caché, ouais.
Pas trop t'associer. D'ailleurs, c'est parce que si vous lisez la lettre ouverte qu'il a publiée, il défend le bilan de Projet Montréal. Il ne fait pas juste dire, écoutez,
Il prend sur
en
son dos, il
général,
prend sur ses épaules, ouais.
ouais, ben oui, il donne des exemples, il dit, regardez, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, puis regardez ce que propose de l'autre côté le parti, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Si vous voulez vraiment vous présenter à la mairie, et c'est peut-être pour ça que je pense que ce n'est pas dans ses intentions, ben la moindre des choses, c'est de ne pas te positionner sur un bilan que sont sur le point de rejeter les Montréalais. T'es mieux de rester un petit peu en suspens. On ne sait pas ce qu'il pense, Gabriel Nadeau-Dubois, de Projet Montréal. Dans 5 ans, il devient le chef. Puis on dit, ah, regarde, il a jamais défendu telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est un risque inutile qu'il prend si c'est véritablement son intention.
Moi, je suis d'accord avec toi que c'est, tu sais, le bilan de Valérie Plante n'a pas fait des heureux. Et la preuve, c'est que son ancien parti va terminer deuxième. Donc, je suis très, très, très d'accord avec ton analyse, Rémi. D'ailleurs, ça me fait penser de rappeler à nos auditeurs, 2 novembre, 19h30, dimanche, sur nos ondes à Boulevard 102.1, émission spéciale concernant les élections municipales. Et on va même être transmis au 99.5 Montréal. C'est le collègue Alex Laramé qui va être là pour nous parler des résultats et on va analyser tout ceci en ondes également. Rémi, tout à l'heure, on parlait avec Antonine Iaccarini qui nous disait « Ouais, PSPP, c'est pas sa meilleure sortie, les libéraux corrompus. Il n'y a plus de gens de l'ère Jean Charest chez les libéraux. Puis là, maintenant qu'il est premier dans les sondages, il faudrait qu'il apprenne à mieux doser ses attaques. » T'en penses quoi, toi?
Ouais, de source sûre, je sais que c'était pas écrit, là, cette ligne-là. Il s'est échappé. Ça arrive à tout le monde. Des élus, ça parle toute la journée à des journalistes, à des collègues. Ça écrit des trucs sur les réseaux sociaux. Ils vont tous en échapper une fois de temps en temps. Après, peut-être qu'eux autres, ils considèrent qu'ils ne l'ont pas échappé, puis que c'était, même si ce n'était pas écrit, c'était pas une mauvaise idée d'aller de l'avant avec ça. Moi, la question qui me préoccupe le plus, parce que tu sais, c'est bien beau là, se demander si c'était une erreur ou pas, c'est est-ce que c'était vrai? Parce que ça, c'est quand même une question qu'on se pose de moins en moins en politique. Hein? On fait attention à la forme plutôt qu'au fond, au contenant plutôt qu'au contenu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Paul Saint-Pierre Plamondon? Il nous dit, ben, les libéraux, là, on l'a vu pendant des décennies, c'est quoi qu'ils font? C'est qu'ils sortent l'argument de la peur, l'épouvantail du référendum pour mieux dissimuler un bilan qu'on observe décennie après décennie, et c'est celui de gouvernements affairistes et corrompus. Bon, sur la question des affaires, je pense même pas que ce soit. Hein, je pense pas que les libéraux devraient le prendre comme une insulte.
Non, du tout.
T'sais, vous êtes un parti libéral. Historiquement, ça a toujours été des gens issus des professions libérales, donc en partie le milieu des finances qui se réunissait autour de votre caucus. Par contre, t'sais, le bilan corrompu, c'est évident que ça choque les députés. Du Parti libéral du Québec en ce moment, mais est-ce que c'est faux? Tu sais, je regardais, je m'excuse, là, mais on ne fera pas un cours d'histoire, OK? Mais le gouvernement, quand même, le gouvernement le plus corrompu de l'histoire du Québec, c'est un gouvernement libéral et c'est celui de Taschereau avant Duplessis. Tu sais, il y a des gens qui disent Duplessis, les manœuvres, la grande noirceur. Mais Duplessis, là, juste en 2 secondes, je vais vous rappeler comment il est arrivé au pouvoir. En 1936, il est chef de l'opposition. Puis il demande des données économiques sur comment l'argent est dépensé et où il s'en va. Puis on lui répond, ah, mais ça, il faut que tu demandes, tu convoques le comité des comptes publics. Il dit, ben, je vais faire ça. Puis là, on lui répond, ben, on ne sait pas comment faire ça. Il dit, comment ça? Il dit, parce qu'on ne fait jamais ça, nous, se poser des questions, comment l'argent est dépensé. Il convoque le comité des comptes publics, il ouvre les livres comptables de l'État du Québec pour se rendre compte de quoi? Que c'est de la corruption de A à Z. Le fils du premier ministre du Québec à l'époque, c'est lui qui dépose le chèque avec les fonds du gouvernement, puis il demande à la caisse de mettre les intérêts dans son compte personnel. Okay? Donc, Taschereau tombe, Duplessis arrive, bon, Duplessis n'est pas sans reproche, et il y a des commissions, tu sais, la commission Charbonneau, là, le livre, la version non caviardée est en ligne, là, allez voir ça éclabousse totalement le Parti libéral, le scandale des
Clairement.
garderies, des rencontres entre les ministres et des entrepreneurs en construction. Robert Bourassa aussi, c'était pas super
Oui,
straight
puis
son
si je
affaire.
vais tirer l'élastique, Rémi, suite au référendum de 95, c'est le scandale des commandites au niveau du gouvernement fédéral, mais qui a une implication très forte au Québec, là.
Oui, puis je veux dire, avec les libéraux, sans vouloir être méchant, mais on a l'embarras du choix. On peut regarder les libéraux à Ottawa ou les libéraux à Québec, mais concentrons-nous sur ceux à Québec. C'est des scandales de A à Z, les scandales des garderies, Arthur Porter et l'hôpital à Montréal avec Philippe Couillard, les Giuseppe Borsellino, Tony Accurso, qui est un important donateur du parti, des rencontres entre des ministres du Parti libéral puis des mafieux. C'est sûr que l'allégation voulant que le Parti libéral ait un passé corrompu, c'est juste d'un point de vue factuel totalement exact.
Faut qu'ils
OK?
travaillent très fort sur leur image pour la suite des choses et qu'ils prouvent le contraire si jamais ils sont réélus aussi, là.
Oui, puis je comprends la posture de Marois Risky et de Pablo Rodriguez. Tu n'as pas à assumer le passé d'un parti. T'sais.
Oui.
Puis je commençais par vous raconter Taschereau, c'est les années 30, là. OK? C'est sûr que tu n'as pas besoin de te positionner là-dessus. Mais je m'excuse, mais les années Charest et les années Couillard, là, c'est hier à l'échelle de l'histoire, là. OK? Donc ça, oui, tu as peut-être besoin de l'assumer, surtout quand on sait qu'il y a des organisateurs du parti à l'époque qui sont encore au sein du parti aujourd'hui. Donc, je pense que la meilleure option pour les libéraux, ça aurait été d'adopter, c'est un mot en S, hein, on connaît ça, les mots avec des... Bon, le mot silence, le silence, tout simplement. Non, mais c'est vrai, vous ne dites rien, vous ne réagissez pas parce que c'est vrai ce qu'il dit, puis vous ne voulez surtout pas que Rémi Villemur fasse une chronique là-dessus après.
Mais ton mot qui est assumé, là, le mot choisi d'assumer, je le trouve pertinent parce que c'est d'accepter consciemment que la situation s'est passée. Et le fait de l'avouer donne beaucoup de transparence. Je veux dire, il n'y a personne qui peut passer à côté des faits, des commissions qui ont eu lieu. Je veux dire, c'est rapporté et dans plusieurs situations, c'est prouvé. Alors, accepter consciemment d'assumer le fait que ça fait partie de l'histoire du parti est une chose. Par contre, tu peux arriver en disant, mais par contre, on a fait le ménage, ou du moins, on tente de faire le ménage. Et assurément, nous, c'est pas dans cette voie-là qu'on s'en va.
Oui, bien, je pense qu'il aurait juste fallu dire Paul Saint-Pierre Plamondon est allé trop loin, mais de ne pas vraiment dire hey, il nous traite de corrompus, c'est une insulte au parti, tatatata, parce que quand vous faites ça, vous ouvrez la porte. Non, on est
Oui.
comme on va vous la faire, la démonstration. Ça va nous faire plaisir. Il y a des documents, c'est documenté, cette affaire-là,
Mais on
la
se
commission.
demandait si, dans le débat, qu'est-ce que ça amenait, par exemple, que PSPP fasse ça, parce que bon, c'est quelque chose qui est connu, puis officiellement, il a ouvert la porte à ce qu'on bogue là-dessus au lieu de parler des enjeux puis débattre de choses plus intéressantes actuellement.
Oui, bien en fait, quand on regarde, quand on écoute l'allocution au complet, là, ça dure 19 minutes, il arrive là pour une raison. C'est qu'il dit, je veux revenir sur les 3 jours du Conseil national du Parti libéral du Québec à Trois-Rivières. Puis là, il y a un sourire en coin, puis il dit, je comprends pas, moi, quand Pablo Rodriguez a été nommé chef, élu chef plutôt, il a dit, moi, là, la peur, puis le référendum, j'en ferai pas des chevaux de bataille, OK? J'ai pas besoin d'aller là. Et il dit, ben moi, mais les échos que j'ai de ces 3 jours-là à Trois-Rivières, c'est qu'ils n'ont rien que parlé de tout ça. Donc là, lui, il est insulté comme chef du Parti québécois de voir le projet de société auquel il croit être encore dénaturé et méprisé. Puis il se dit, ça vient de qui ça? Ben, ça vient d'un parti. Et à chaque fois, il utilise cet argument-là pour nous faire oublier qu'il est corrompu et affairiste.
Rémi Villemur, chose certaine, oh, retomber dans le oui, puis le non, puis la peur. Oh, on dirait que ça me tente moins pour la prochaine élection provinciale. Merci beaucoup, Rémi, pour ton excellente chronique. Encore une fois, on se parle jeudi. Rémi Villemur, que vous pouvez entendre sur les ondes du 99.5 Montréal du lundi au jeudi à 18h, les samedis matins à 8h et avec nous les mardis et jeudis à 13h. Je te souhaite une excellente émission ce soir, mon ami, et on se reparle jeudi.
Bye-bye, toujours un plaisir.
Salut,
Ciao.
toujours un plaisir, Rémi. Salut, Rémi Villemur, un grand jeune talent à Montréal, dans les médias. Franchement, ne le manquez pas si vous êtes dans la région de Montréal au 99.5. Pascal, je te fais une proposition, on fait une courte pause. Puis après ça, on fait ton dossier sur les médecins.
Oui, absolument. Alors, si vous voulez comprendre un petit peu plus le projet de loi qui est fortement critiqué par les médecins, j'ai posé 5 questions, les 5 mêmes questions à plusieurs médecins de générations différentes. On va aller faire le compte-rendu.
Excellent. Tout de suite après cette pause dans l'émission Nageurs sur Boulevard 102.1. Vous êtes à l'émission On en jase. Il est présentement 13h38. À la météo, c'est une superbe journée ensoleillée aujourd'hui, 10 degrés. Même chose pour demain, ça sera 9 degrés. Jeudi, alternance soleil et nuages, 9 degrés. À plus long terme, il annonce de la pluie pour la fin de semaine, Pascal, mais ça a le temps de changer. On est quand même juste mardi. Pascal, énormément de détresse chez nos médecins avec la loi spéciale, la loi numéro 2 qui a été passée sous Bâillon vendredi dernier. Et là, merci beaucoup d'avoir fait ce travail rigoureux, d'avoir questionné les médecins par rapport justement à leurs émotions, à comment ils voient la situation. Puis, parler à des médecins, parler à une fédération, c'est différent. Fait que j'aime beaucoup l'exercice que tu as fait. Alors, qu'est-ce qui en ressort de cet exercice-là? Quelles questions tu leur as posées? Je te laisse le micro.
D'abord, 5 questions. Ce sont les mêmes questions posées à plusieurs médecins qui sont dans des générations différentes. On a génération vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine en montant. Les 5 questions sont celles-ci. La première, quelle mesure vous impacte le plus et de quelle manière? La deuxième, pourquoi on vise les médecins comme étant problématique selon vous? C'est quelque chose qui est redondant dans notre questionnement. La troisième, c'est concrètement, quels impacts négatifs le projet de loi pourrait avoir sur le public, toujours avec leurs yeux de médecin. Quatrième question, quel avenir entrevoyez-vous pour le système de santé avec un projet comme celui-là? Et cinquième question, est-ce que ça va miner les relations entre les différents corps de métier, infirmières, préposés bénéficiaires, que ce soit les médecins? Est-ce que votre climat de travail entre équipes, entre corps de métier, sera affecté.
Hey, c'est bon ça, parce que Geneviève Biron, la grande patronne de Santé Québec, a écrit une note aujourd'hui rappelant qu'il faut garder un climat de travail sain au sein du système de santé et notamment des hôpitaux entre les différents corps de métier.
Parce que ça impacte beaucoup. Puis on va faire la petite parenthèse avant de commencer avec les réponses. Là. Mais entre autres, hier, moi, je lisais le projet de loi. Honnêtement, j'ai l'air fatiguée, Jeff, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. Là. J'ai épluché. Tu le sais comment ce travail-là, pour moi, est de rigueur et d'importance quand il arrive avec des projets de loi comme ça. Puis entre autres, une petite facette au terme de pharmaciens et pharmaciennes qu'on n'avait pas vu, mais ils font aussi affaire à ces pharmaciens et pharmaciennes là, qui sont à temps partiel avec des agences pour se placer. Par exemple, toi, tu as fini tes études, tu n'es pas attitré à une pharmacie en tant que telle, tu vas te promener d'une pharmacie à une autre selon les régions où il y a une pénurie de main-d'œuvre.
Selon les besoins, exactement.
Tu fais affaire avec une agence, on veut arrêter ça. Ce serait une demande qui aurait été faite pour certains par des pharmaciens propriétaires et tout ça, en disant, comme ça, on pourrait stabiliser nos équipes. Mais souvent, ils viennent en aide à des endroits où on a des pénuries de main-d'œuvre. Ça arrêterait aussi.
Exactement. Donc, ça arrêterait. Donc, les régions seraient encore pénalisées.
Et autre point pour les pharmaciens, si, par exemple, toi, tu perds ton médecin de famille, qui est demain, et c'est lui qui fait les prescriptions, puis c'est lui qui s'assure de tes suivis. Tu perds ton médecin, point. Ou encore, tu as vraiment de la difficulté à avoir une accessibilité à un médecin. Tu vas te rendre en pharmacie, puis parfois, on va pouvoir renouveler ton ordonnance.
Ben oui.
Pour une fois.
Je le fais régulièrement. Le temps que je prenne mon rendez-vous avec ma médecin.
Et que tu sois capable de parler à ces médecins-là. L'affaire, c'est... Mettons que tu es pris du cœur, tiens. La fameuse expression d'être pris du cœur. Le pharmacien et la pharmacienne n'est pas cardiologue. Elle pourrait, pour une fois, renouveler ta médication. Mais pour la suite, elle se met un peu dans le trouble là, parce qu'il faut qu'elle prévoie te donner une médication. Ils sont obligés de vous donner de la médication en général. Ça, c'est très global comme affirmation, mais tu peux pas laisser quelqu'un qui souffra là, comme ça. Mais si tu n'arrives pas à avoir ton rendez-vous avec ton médecin ou ta médecin, ben, qu'est-ce qui arrive? On va-tu être capable de donner la médication aux gens qui en ont besoin? Est-ce qu'on va commencer encore plus créer des chaînes d'attente qui vont être engorgées? Est-ce que ça va résorber tout ça comme problématique en pharmacie, assurément.
Oui, et ainsi qu'on soit plus en danger collectivement également.
Alors, il y a plein de points comme ça dans le projet de loi que j'étudiais, puis je suis loin d'être dans le système de santé, mais que de mes yeux à moi, j'allais poser des questions à des professionnels, puis je vois que, bon, dommages collatéraux quand même, où ça n'a pas été ficelé. Mm-hmm. Revenons à nos moutons, revenons à nos 5 questions. Posé aux médecins selon différentes générations. D'abord, je commence par la 5e question parce que c'est celle où j'ai eu le moins de réponses.
OK.
Sur est-ce que ça va miner les relations entre les différents corps de métier, infirmiers, infirmières, préposés? Est-ce que entre corps de métier, il va y avoir des problématiques? Semble-t-il que tout le monde se soutient là-dedans?
J'ai parlé à plusieurs infirmières, ils soutiennent vraiment les médecins.
Parce qu'ils voient que ça va effectivement avoir des dommages collatéraux sur leur propre profession. Mm-hmm. Alors, c'est les réponses les plus courtes que j'ai obtenues de chacune des générations.
Ça ne me surprend pas, ça, qu'on se soutienne, parce que les médecins avaient soutenu aussi les infirmières et justement les professionnels en santé dans leurs négociations avec le gouvernement.
Ensuite, je vois la première question comme étant celle où on veut répondre d'abord et avant tout, quelles mesures vous impactent le plus et de quelle manière? Et là, toutes sortes de réponses, Jeff. Entre autres, le fait d'aller brimer les droits et les libertés comme être humain.
Donc,
on se dit, nous aussi, on a des rêves. Nous aussi, on a envie, une fois de temps en temps, de prendre des congés, fonder une famille, etc. Puis ça va venir un peu faire en sorte que ça va être impacté. La fameuse, je vais mettre en parenthèse, Gestapo aussi, sur le dos de chacun des médecins. Qui risque de miner, en fait, les relations entre les médecins puis le travail collaboratif. Comme quoi, le système de surveillance avec 3 intervenants serait mis en place. Comme quoi, on pourrait devenir délateur de ses collègues, là, que ce soit même sur le milieu de travail ou ailleurs.
Oui.
Ça, on comprend
si
pas du tout.
Si je suis pas délateur, ça se peut qu'on me le reproche, fait que c'est encore pire.
Exact. Puis si on le fait pas, effectivement, ben, passible d'amende salée pour le médecin délateur et le médecin fautif aussi. Donc, ça reste que ça revient énormément. Ce qui revient aussi, c'est la coupure de rémunération. Et là, on nous a même mis en parenthèse, des fois dans les réponses, c'est pas un bon point pour la population, puis on sait que c'est très difficile pour la population d'adhérer à ça, mais c'est pas nécessairement une coupe de 15 % de 10 %, c'est vraiment un 30 à 50 % pour certains. Puis il y en a qui ont développé en disant, si on parle d'argent, on a des dépenses, nous, officiellement, à gérer au quotidien là-dedans, puis des fois, c'est à coût de milliers puis de 100 000 $ parce qu'on est travailleur autonome. Et cette coupure-là, en termes de pourcentage, vient vraiment impacter notre salaire.
Oui, tantôt, le docteur Vincent Oliva, qui est le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, disait que des cliniques en danger à l'heure actuelle parce que perte de 40 % de revenus, je ne pourrais plus payer mon personnel d'appoint, je ne pourrais plus payer mon local, fait que je vais fermer ma clinique.
Exactement. Puis là, moi, je me disais, mon Dieu, ça semble un peu intense, mais on nous donnait des exemples. L'écroulement, justement, du système de santé, qu'on ne serait plus capable de maintenir les GMF ouverts, parfois avec des baisses de salaire comme ça, parce que certains calculent jusqu'à 45 %, comme on dit. Donc, ça coûte annuellement de 40 000 à 60 000 $ de frais de bureau. Et ils ne gagnent pas 400 000 $ loin de là pour certains.
Exactement.
Selon ce qu'on mentionne.
Un bon exemple qu'on a donné tout à l'heure à la conférence de presse, c'est les dermatologues qu'on a sortis des hôpitaux en disant « Regroupez-vous, faites des cliniques. » Mais là, eux autres vont perdre 30, 35, 40 % de leurs revenus. Donc, si tu as besoin d'un dermatologue comme moi parce que tu fais de l'eczéma, tu vas le trouver où? Bonne chance.
Ça va être très, très, très difficile. Alors, c'est sûr que c'est des impacts dont on pourrait prendre plus de temps dans l'émission, mais tu sais, ça roule. On va continuer de lire un peu les réponses qu'on a reçues là-dedans. Concrètement, assurément, il y a beaucoup une question salariale qui est là-dedans par rapport aux projections qu'on avait faites dans l'année. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, on va pas pleurer pour les médecins. Ils sont chanceux d'avoir ces salaires-là, mais quand tu reviens à combien ils ont dû dépenser en frais scolaires aussi pour leur discipline, puis pour être là, puis des années et des années à s'engager là-dedans. Il y en a qui ont des gros, gros frais d'études et ça venait un peu colmater tout ça, un salaire comme celui-là dans les premières années. Allons-y avec la question numéro 2. Pourquoi on vise les médecins, selon vous, comme étant problématiques?
Oui, ça, c'est intéressant, justement. Pourquoi on les vise? Comment, eux, ils se sentent par rapport à ça?
On a, entre autres, le gouvernement qui aurait besoin d'un bouc émissaire et que les gens aiment haïr les médecins au Québec pour certains parce que c'est une cible qui est assez facile. Et on dit clairement l'échec du réseau est dû à un enchaînement de mauvaises décisions de différents gouvernements. Alors, on essaie peut-être de détourner l'attention de tout ça puis d'aller mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre qu'un gouvernement qui a été mis en place.
Oui, puis quand je vois qu'on a mis, par exemple, dans le projet de loi, un indicateur de performance qui est un temps d'attente de 90 minutes moyen pour voir un médecin à l'urgence, ça dépend pas juste du médecin.
Certains qui vont aussi avec une réponse comme quoi ben, une partie de la population croit déjà qu'ils sont trop payés, que la majorité n'ont pas de médecin ou qu'ils n'arrivent pas à le voir. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait continuer dans le même système si, en plus, ils ne méritent pas leur salaire et qu'ils sont trop paresseux pour vouloir redresser la situation? Donc, ils jouent un peu à leur avantage au niveau du gouvernement avec cette croyance chez les gens. D'autres qui parlent de capital politique qui serait fort. Donc, si tu veux des votes, il faut des propositions fortes en santé. Malheureusement, ces médecins-là sont indispensables pour tout le monde. Alors, ils disent, ben, tôt ou tard, il y aura assurément quelqu'un à mettre sur la croix, puis c'est le cas des médecins. Quelqu'un d'autre qui dit, c'est facile de dire que c'est de notre faute, mais c'est un problème qui est très, très complexe. Assurément, peut-être qu'on va un petit peu trop vite. Là, c'est même peut-être démagogue de la part du gouvernement d'aller dans cette strate-là pour certains médecins. Et puis, il y en a qui se posent tout simplement la question, allez savoir pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi ils sont le problème. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se demandent, c'est pas un raccourci intellectuel de mauvaise fois d'incompréhension de la relation des médecins avec les malades, un genre de vestige du passé judéo-chrétien pour avoir de l'argent. C'est-tu de l'orgueil mal placé? C'est-tu de la jalousie? Quelqu'un qui dit « J'ai gradué en 2012 et depuis 2014 qu'on nous accuse d'être le problème de la société. » Puis elle dit « Je ne sais pas pourquoi. Je travaille plus de 40 heures par semaine. » 24 heures sur 24, souvent pour être,
ben
de
oui,
garde.
Pour être de garde.
Je fais des 7 jours sur 7. Je fais des fins de semaine. Je fais des soirs. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais de mal?
Et ça revient à ce que Emily Britton nous a dit hier, justement, quand elle mentionnait que, bon, elle a été congédiée de son rôle de médecin conseil. Puis là, qu'elle voit ce projet de loi-là, m'a su, puis elle dit, Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi, puis ses collègues aussi allaient jusqu'à suranalyser. Mm-hmm. Comment ça, ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai manqué? Ça doit être de ma faute, alors que c'est un système en entier qui ne fonctionne pas. Et quand je dis que le gouvernement n'a pas pris une bonne décision avec la loi spéciale, tu le sais, cet été, même au début de l'automne, on en jase, les gens étaient très critiques envers les médecins. Mais là, les textos qu'on reçoit, c'est « Ouais, ça n'a pas d'allure ce que le gouvernement est en train de faire avec les médecins. Hey, voyons donc, crime, un médecin, ça a pris 8 ans d'université, il peut bien gagner un bon salaire. » T'sais, tu vois, le momentum a changé de côté complètement par la non-ouverture du gouvernement.
Continuons avec les réponses reçues. La troisième question-là, elle nous concerne tous et chacun, non-médecin, plutôt oui. Patient. Je posais la question concrètement, c'est quoi les impacts négatifs du projet de loi sur le public, là, sur les patients que vous considérez voir venir? Baisse d'accessibilité aux soins. Donc, plus de patients par médecin de famille, moins de rendez-vous disponibles par patient. Si on fait les maths, c'est ce que ça donne. Aussi bonne chance pour avoir accès à une ligne téléphonique pour prendre le 10 rendez-vous. Mm-hmm. Si on double le nombre de patients par clinique, mais pas plus de ressources. On n'a pas parlé de ça
en
aussi.
Effet.
Très intéressant, il y a des gens qui disent ben, des départs probablement massifs. Personnellement, je reste pour mes patients avec les nouvelles pénalités. Je ne pourrais peut-être pas rester autant que je le souhaite. Probablement qu'il va y avoir des changements à faire dans ma vie, comme vendre ma maison, peut-être réfléchir à mon orientation, la qualité de vie. C'est sûr qu'elle est particulièrement différente d'une personne à une autre, mais la personne qui est dans la trentaine me dit « Je suis dans un stade de ma vie où je veux aussi une petite qualité de vie avec mes enfants. » Donc, j'ai le droit de, peut-être de me tromper sur ma vocation dans ce cas-ci, mm-hmm. mais tu sais, je veux pas travailler ouais. toutes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour gagner 26,8 $. Puis en plus, ben, on peut pas facturer plus de 12 heures par jour maintenant avec le projet de loi. Comment est-ce que les gens vont pouvoir penser que ce système-là va pas éclater pour la suite? Est-ce qu'on veut privatiser le système rendu là? Et il y en a beaucoup qui pensent que les dommages collatéraux aussi, ça sera de ne pas augmenter l'accessibilité des soins de qualité, puis plutôt faire virer ça au niveau du privé.
Oui, ça va nous mener vers là. Puis, tu sais, un médecin, une médecin qui est dans la trentaine, qui fonde une petite famille, puis qui a du temps avec ses enfants, là. C'est pas parce que c'est médecin que tu n'as pas le droit de t'occuper de tes enfants. Là. Je veux dire, c'est sain et louable. Là. Alors, puis c'est le même problème en passant pour les infirmières là, avec le temps supplémentaire qui ont beaucoup de difficultés à conjuguer travail et famille.
Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Quelqu'un qui est allé dans le vraiment concret ouais, par rapport à des impacts, mais entre autres, quelqu'un qui dit, tu sais, moi, j'ai une pratique de médecine diversifiée, puis il y a une grosse proportion de mes patients avec des problèmes de santé mentale. J'ai aussi beaucoup de bébés et des jeunes enfants dont je dois traiter avec leur anxiété parentale, les désirs de me montrer chaque bouton, égratignure, petit bruit de bouche inhabituel. Actuellement, il existe un code qu'on appelle l'intervention clinique. Un code qui nous permet, si on dépasse 25 minutes avec un patient, de charger par tranche de 15 minutes. Donc 30, 45, 60, 75, 90. Ça revient à peu près à un taux horaire de 115 $ de l'heure. Donc on a même des chiffres. Mm-hmm. Il faudrait valider là, dans le manuel de facturation, par exemple, de notre côté, mais tu sais, c'est un petit peu plus tough. Là, ça permet que quand il y a ces patients-là dans son bureau, par exemple, une femme victime d'inceste dans sa jeunesse ou une femme victime de violence conjugale, un homme suicidaire, d'accorder le temps nécessaire pour pas que cette personne-là pense que c'est un pion. Si on continue avec cette mesure-là, il y en a qui n'auront pas, l'argent pour aller voir les psychologues, mais aussi qui vont être impactés puis sentir qu'ils n'ont pas d'aide puis qu'ils n'auront pas la solution appropriée. Par exemple, avec la perte de salaire actuel pour certains médecins, on va passer à 40 $ de l'heure au lieu de 115, c'est 65% de perte salariale. Puis pour maintenir un salaire horaire similaire à ce qu'ils ont en ce moment, par exemple, là, ce qu'on nous donne, il faudrait que ce médecin-là voit 6,35 patients par heure.
Par heure?
Ça fait moins de 10 minutes par patient. Les notes pas écrites. Est-ce que c'est vraiment humain? La personne
non.
pose la question.
Puis est-ce que c'est réaliste?
Pour non. la dame qui passe par des douleurs quand elle a des relations sexuelles, qu'elle a des traumatismes peut-être, ou encore, « Hey, ding-dong, ton temps est fini, va pleurer ailleurs, j'ai pas vraiment de solution, j'ai pas le temps pour toi. » À 10 minutes par patient, c'est sûr qu'il va y avoir des mauvais calls, qu'on va faire des erreurs, qu'on va devoir vivre avec le poids de ces erreurs-là. Puis assurément que le fait de participer à la santé globale des gens va devenir plus lourd parce qu'on va avoir l'impression finalement de peut-être y nuire.
Oui, exactement, puis on va vouloir faire vite. Et on va se tromper et surtout, on n'accompagnera pas les gens avec bienveillance. Et s'il y a bien quelque chose qu'on cherche chez notre médecin de famille, c'est la bienveillance.
Demain, faisons une petite phase 2.
Hey, on poursuit demain, certain. Je suis entièrement d'accord. Quel beau travail, Pascal Cévé.
Ben, merci à de nous avec ces
réponses-là. Ah oui, merci beaucoup de nous avec ces réponses-là. Ça nous éclaire énormément. Le retour de Gravel suit, comme d'habitude, Pascal, avec Denis, Véro et Audrey. Nous, on se parle demain à midi dans l'émission On en jase, partie 2 de ton excellent dossier avec les médecins. Ça me donne froid dans le dos de savoir qu'on leur coupe autant de salaire. Hey, 115 $ de l'heure à 40, puis là, il faut que tu passes les patients dans la machine à saucisses. Ouf, il me semble que c'est pas le système de santé que je veux.
Avec le mélange de travailleurs autonomes puis de travailleurs au public, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas ficelé et on commence à le comprendre.
Vraiment. On vous souhaite une excellente fin de journée sur les ondes de Boulevard et on se dit à demain midi. Bye bye, guys!
Bye, à demain!